Bonjour et bienvenue dans ce 21e épisode de la saison 7 de Vue du banc. Avant qu'on se plonge dans le sujet du jour, qui sera le bilan du mercato, je vais d'abord vous rappeler Cop Arena, l'appli, le nouveau média qu'on a lancé il y a un peu plus d'un mois. On espère que vous allez être de plus en plus nombreux à nous rejoindre et pour vous motiver, pour vous inspirer, je vais vous donner un peu le programme de la semaine à venir. Ça a commencé par un entretien avec Alexandre Kervaillant, analyste vidéo, qui nous a parlé du milieu parfait avec Julien Assounsao et Ismaël Afoud. Florent aussi y a contribué un peu. Dans la suite, il y aura le premier épisode de Projet de jeu, entretien de Stéphane Moulin fait par Maxime Brégand et Christophe Cuchely. Maxime qui nous rejoint, on est ravis qu'il rejoigne l'aventure. Et puis il y a aussi des articles, le banquet tactique de Christophe a déjà été publié. Mercredi, il y aura l'Observatoire du beau jeu que je signe où on partira en Argentine. Et vendredi, il y aura le Data Focus de Julien qui va nous parler un petit peu Covid. Voilà pour le programme de la semaine, on espère que vous allez nous rejoindre. Je vous rappelle que c'est 3,99€ sur coparena.com pour vous abonner et l'appli est disponible sur l'App Store et sur l'Android Store. On se retrouve tout de suite dans le 21e épisode de la saison 7 de Vue du banc.
Vue du banc, le podcast pour comprendre le jeu, vous est présenté par PMU.fr.
Et j'accueille dans cet épisode les Philippe Risoli et Patrice Carmouze de l'analyse football. D'abord Philippe Risoli, Florent Tonuti, salut Florent.
Salut Raphaël. Je comprends pas par contre le rapport entre Risoli et Carmouze. Je suis pas sûr qu'ils travaillent ensemble en fait.
Non, c'est juste une nostalgie d'une certaine époque de la télévision française.
Ok.
Des jeux télé, des personnes pas forcément charismatiques qui avaient quand même des programmes télé. Et Patrice Carmouze, je sais que ça lui fait plaisir. Salut Christophe.
Salut méga gaffe.
Méga gaffe qui bien sûr est dans Fort Boyard mais qu'on regarde encore parce qu'on est resté des enfants. Messieurs, on va parler du bilan du mercato. Alors c'est un mercato un peu particulier puisqu'il a été beaucoup moins actif que lors des années précédentes. Le football est en crise pour diverses raisons et notamment chez nous en France. Et on va commencer par un petit jeu. Ça va être le vainqueur du transfert. Est-ce que c'est le joueur, le club ou les deux? Sachant que ça peut peut-être être aucune de ces parties-là. Et on va commencer donc par le championnat français avec les arrivées dans notre Ligue 1. On en a gardé quatre principales. Florent, on va commencer par Arkadiusz Milik, qui a signé à Marseille en venant de Naples. Alors, il y aura d'autres joueurs dont on va parler un peu, mais c'est vraiment une des arrivées marquantes de ce mercato. Il est arrivé au club et derrière le centre d'entraînement a été perturbé par des
Ouais.
supporters en colère. Qu'est-ce que tu penses de ce deal? Est-ce que tu vois ça mieux pour le joueur ou pour le club? Sachant que ça peut être les deux, ça peut coller pour les deux. Est-ce que c'est ce que tu ressens pour Arkadiusz Milik?
Bah, le problème de Milik aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'on ne connaît pas son état de forme. Peut-être que Christophe aura plus d'infos à ce niveau-là en ayant plus vu Naples. Mais à court terme, enfin, à moyen terme, si l'OM arrive à le retaper, c'est quand même un joueur qui n'est né qu'en 94, donc qui a encore quelques années de football devant lui. Il est pas fini, il a 26 ans. À Marseille, le Milik à son meilleur niveau serait largement titulaire devant Benedetto et les autres, même s'il n'y en a pas beaucoup d'autres capables de jouer en pointe côté marseillais. Donc en théorie, si tu arrives à le retaper, c'est un bon deal pour Marseille. Ça peut être un bon deal pour les deux parce que ça peut lui permettre de se relancer sans doute en vue de l'Euro en juin prochain. Maintenant, il y a aussi le contexte actuel de Marseille. Tu as un peu évoqué ce qui se passe niveau extra-sportif, mais même niveau sportif, il y a un marasme, il y a un Villas-Boas qui a annoncé quasiment déjà qui a annoncé qu'il partait en juin, que ça se finirait en juin son aventure. Est-ce que tu vas garder des joueurs motivés, sachant que déjà la motivation chez certains c'est quelque chose qui pouvait manquer? Est-ce que tu vas les garder motivés jusqu'au mois de juin, alors que la Ligue des Champions s'éloigne de plus en plus, voire l'Europe, parce que le rythme tenu par l'OM ne vaut pas le rythme des 4-5 équipes devant depuis quelques matchs. Donc est-ce que Milik, avant-centre et joueur en bout de chaîne finalement peut vraiment tirer son épingle du jeu dans une équipe où il y a plusieurs maillons qui sont défaillants depuis pas mal de temps? C'est une vraie question qui se pose, parce qu'après je pense pas non plus que ce soit le joueur qui soit capable de remettre l'équipe à l'endroit tout seul.
Un Milik en forme, ça ressemble à quoi, Christophe, dans le jeu? Parce que le souvenir qu'on a, c'est d'abord l'Euro 2016, où il avait été très bon avec Lewandowski devant. Depuis, à Naples, il y a eu des très hauts et des très bas. Quelle est la bonne version de Milik?
Alors déjà, c'est ton souvenir à toi. Moi, c'est pas du tout mon souvenir de Milik. Mon souvenir principal de Milik, c'est ce qu'il faisait du côté de Naples. Bah, clairement, faut séparer les deux contextes, le contexte sélection et le contexte club. Contexte sélection, moi, ça m'a souvent rappelé, alors c'est pas tout à fait le même joueur, mais ça m'a souvent rappelé le côté Cavani avec Suarez en sélection uruguayenne, où tu voyais un Cavani être bon, déjà dans une attaque à deux, ce qui change un petit peu des habitudes de club, mais un côté meneur, etc., joueur capable de finalement faire briller quelqu'un qui est sans doute encore meilleur finisseur que lui. Et bon, Milik est plus apte à faire ça, hein, mais c'était une articulation qui pouvait se faire plus naturellement quand il est combiné avec Lewandowski en sélection. En club, c'est différent parce que c'est quand même alors il y a beaucoup de jeux clubs, hein, qui jouent en 4-3-3, c'est pas uniquement ceux qu'il a fréquentés, mais en plus, si tu prends à la fois l'Ajax et Naples, c'était les 4-3-3 qui étaient dominateurs, qui arrivaient assez bien à s'installer dans le camp adverse, et finalement ce qu'on demandait de la pointe, alors c'est bien quand ce joueur numéro 9 est capable de combiner avec les partenaires, et ça, Mertens notamment le faisait à la perfection quand il a pris la place en pointe du côté de Naples. Mais sinon, il y a quand même un côté où on demande à ce joueur d'être finisseur, et là-dessus, Milik avait quand même un rythme de budget à calculer, alors j'ai plus le chiffre en tête. Mais en club, sur quasiment toutes les compétitions, il était genre un but tous les 105, 110 minutes. Donc vraiment là-dessus, gros gros finisseur, parce que c'est des valeurs qu'il avait depuis son début de carrière, malgré les blessures, etc., qui sont globalement équivalentes aux meilleures saisons d'Icardi, avec une vraie bonne frappe de balle à 20 mètres, notamment sur coup franc. Après, le contexte marseillais, au-delà de l'extra-sportif, hein, le contexte tactique est pas du tout le même. C'est-à-dire, même si tu arrives en 4-3-3, ton milieu de terrain et tes ailiers ne seront pas exactement les mêmes. Surtout le milieu de terrain qui sera un petit peu plus éloigné des trois de devant et qui va un peu moins pouvoir apporter le danger lui-même. Donc, ce qui fait que pour répondre vraiment à la question, si on essaie de garder encore 4-5 minutes ton truc de qui gagne le deal. Pour moi, à court terme, les deux sont vraiment gagnants, parce que Milik était borduré, parce qu'il n'a pas voulu s'y reprolonger son contrat du côté de Naples, donc du coup, il était plus du tout dans l'équipe. Donc là-dessus, lui, ça lui permet de gagner du temps de jeu. Et du côté de Marseille, je pense qu'on a affaire à un meilleur, voire bien meilleur joueur que Benedetto. Maintenant, à moyen terme, je pense que Milik aurait pu faire mieux. Alors après, ça peut très bien être un tremplin, hein. Mais Milik à Marseille, je vois quand même une forme de truc un petit peu bizarre, je sais pas, ça me titille un peu pour moi. Milik, que j'adore, enfin, que j'aime beaucoup, pourrait espérer mieux, mais à voir. Vraie question sur est-ce que Marseille va lui donner plus que 5 ou 10 ballons exploitables par match. Si la jauge est aussi basse que sur les dernières semaines, bah, il pourra pas faire de miracle, et au mieux, il marquera un but un peu tout seul, mais un attaquant sans munitions n'a quand même assez rarement de l'intérêt.
Il y a des rumeurs qui ressortent de rachat à l'Olympique de Marseille, peut-être parce que la valeur du club a baissé ces derniers jours et que c'est plus facile de faire un deal. Donc on verra, peut-être que si le club change de dimension, ça peut aussi aider Milik, un peu comme ça avait été le cas pour Matuidi qui est arrivé au PSG juste avant que le Qatar reprenne le club et qui a pu s'épanouir dans cette nouvelle version du club. Joueur suivant, et on va en parler avec vous deux, j'allais dire avec Florent, mais pourquoi pas Christophe, Crépin Diatta, qui est venu de Bruges à Monaco. Florent, alors je vais donner mon avis, même si j'ai plus forcément l'habitude quand j'anime. Je suis vraiment surpris par le deal. Je pensais qu'il irait plus haut lors de son prochain club et que ça coûterait un peu plus cher. Là, je crois que c'est 15 ou 16 millions d'euros, quelque chose comme ça,
Ouais, il me
pour
semble.
Monaco. C'est un joueur qui a fait de belles perfs en Ligue des Champions, qui a des stats de création. Qui en avait en tout cas des stats de création assez impressionnantes en Belgique, qui était vraiment un des 3-4 joueurs les plus convoités en Belgique. Et là, il vient dans une équipe de Monaco qui, certes, est un peu sur le retour, mais qui n'est pas la force financière et sportive qu'il était il y a 5-6 ans. Là, pour moi, le vainqueur, c'est clairement Monaco. Je sais pas si tu es de mon avis, mais parce que je pense que si Diatta progresse comme il doit progresser, ils peuvent faire une plus-value et en même temps profiter de sa qualité sportive assez rapidement.
Ouais, très très bon coup de Monaco. C'est difficile de penser autrement. Maintenant, bon, voilà, ils ont sorti 15-16 millions. C'est jamais trop doux, vu le contexte actuel. Je sais pas où est-ce qu'ils les avaient, ces 15-16 millions. Mais ouais, il y a pas grand-chose à redire. En plus, les premiers matchs qu'il a fait, il s'est quand même montré. Je suis pas sûr qu'il ait été décisif déjà. Il me semble pas. J'ai les stats sous les yeux, mais j'ai pas de certitude.
Pour prendre des cartons, oui, mais décisif devant le but, je crois pas.
Ouais, il me semble pas, mais c'est vrai que en fait sur la première moitié de saison dans le système de Kovac, il y avait Gelson Martins et Diop qui complétaient, on va dire le quatuor offensif avec Folland et Ben Yedder devant, et Diatta vient s'inscrire dans la rotation avec Diop et Gelson, et pour l'instant et c'est positif selon moi, il met plus Gelson sur le banc que Diop, parce que c'est vrai qu'en termes de profil, voilà, il se rapproche plus de ce que fait un Gelson, de ce que faisait un Gelson sur le terrain jusque-là, que de ce que faisait, que de ce que fait encore même Sofiane Diop. En plus, je découvre d'ailleurs que Monaco a perdu Gelson sur blessure, donc ils avaient vraiment besoin d'un joueur comme ça, capable d'apporter un peu plus de vitesse et de percussion. Un joueur qui les rendra peut-être un peu plus dangereux sur attaque rapide, où il me semble que Monaco peut encore faire des progrès là-dessus, parce que avec Folland et Ben Yedder, Raphaël, t'as déjà évoqué leur morphologie en off, c'est pas forcément les joueurs les plus rapides pour mener des contres rapidement, et Diata peut apporter quelque chose de ce point de vue, même s'il pourra peut-être pas non plus les mener tout seul, donc il faudra réussir à le suivre, mais oui, très bon coup de Monaco. Et pour Diata, de toute façon, vu la politique de Monaco, c'est quelqu'un qui va faire un an et demi à Monaco, je pense, et qui, à l'été 2022, du coup, quittera Monaco pour aller plus haut, et sans doute en offrant une plus-value à la SM. Donc, l'un dans l'autre, en fait, c'est vrai qu'à court terme, t'aurais pu imaginer un Diata plus haut directement, mais vu la politique de la SM, tu sais qu'il va pas perdre non plus beaucoup de temps sur le rocher. Donc bon coup pour les deux, je pense.
Ouais, non, mais ça, pour moi, c'est le joueur qui ira en première ligue, forcément, vu les qualités d'élimination, la qualité de dribble, la vitesse. Je pense que vraiment, il peut très bien s'épanouir là-bas, pas forcément dans un top club, mais quand le contexte sera revenu à la normale, je vois très bien West Ham ou Everton mettre 30-35 millions sur lui.
Ou un gros club allemand, peut-être. Parce qu'il est assez jeune, ouais, encore, hein, ça reste un 99 aujourd'hui.
Donc, c'est vrai, mais est-ce qu'il sera pas trop cher déjà pour les clubs allemands, tu vois?
Peut-être.
Parce que on parlera après avec l'exemple de Simakan, mais 15-20 millions, ils y vont. Est-ce qu'ils vont aller plus haut sur des joueurs comme ça? Je sais pas, mais en tout cas, je suis assez curieux de voir comment il va s'épanouir à Monaco, parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup. On aurait peut-être dû inviter Guillaume Gauthier d'ailleurs pour en parler. On lui demandera son avis. On le fera tweeter à ce sujet, mais c'est vraiment un bon joueur. Joueur suivant, et on va rester un peu avec toi, Florent, c'est Jean-Michel Seri, qui a signé au Girondins de Bordeaux, j'allais dire à l'Olympique Lyonnais, tu vois, bêtement, parce que j'étais encore dans l'idée que Jean-Michel Seri était le joueur qu'on avait vu à Nice. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce coup? Parce que c'est pareil, c'est un joueur qui est un peu en perdition, qui arrive dans un club qui était en perdition, pour qui ça va mieux un peu depuis quelques mois. Est-ce que t'es ravi ou est-ce que t'es réjoui de voir un Seri dans ce Bordeaux-là, ou tu, vu la construction actuelle de l'équipe, tu te poses des questions sur le projet?
Le mot, c'est intrigué. Aujourd'hui pour Seri. Alors c'est vrai que c'est pas le Seri de Nice de 2016-2017 qui fait des saisons à 7 buts, 9 passes D. L'an dernier à Galatasaray, il finit à 2 buts, 3 passes décisives. Enfin voilà, on est sur un joueur qui est en baisse en termes de réputation. De toute façon, s'il n'avait pas été en baisse, il serait jamais venu à Bordeaux. Non, intrigué parce que à la base, Bordeaux voulait absolument un milieu de terrain depuis la blessure d'Otavio. Et en fait, quand tu recrutes Seri, tu recrutes quasiment l'anté-Otavio au milieu de terrain, quoi. Tu peux difficilement faire deux profils plus opposés, sachant que Seri est beaucoup plus porté vers la création, vers le jeu vers l'avant, en tout cas le Seri dont on se souvient, même si le Seri plus récent, je sais pas vraiment exactement ce qu'il va proposer, ça je vais un peu le redécouvrir. Mais voilà, tu cherchais un joueur à gros volume un petit peu pour remplacer Otavio, gros volume défensif surtout, et en fait tu trouves un joueur avant tout connu pour ses capacités créatives, donc et surtout pas vraiment connu pour son volume défensif. Donc quand tu fais cette addition là, tu te dis qu'il va falloir construire quelque chose de nouveau, et c'est vrai que bon voilà, quand tu vois les premiers matchs, je vais revenir sur mon Yacine Adli, quand tu vois les premiers matchs d'Adli replacé à ce poste, pas devant la défense, mais un des deux postes les plus bas sur le terrain aux côtés de Bazic, tu vois que c'est Adli en fait qui reprend cette charge, on va dire, laissée par Otavio et cette charge défensive. C'est lui qui, en termes de volume défensif aujourd'hui, est le bordelais le plus actif. Et tu te dis, tu vas l'associer avec un Seri qui peut, je pense, être un bon complément pour lui offrir des solutions, pour pouvoir jouer vers l'avant, ressortir les ballons et atteindre ensuite Ben Arfa un cran plus haut. Donc je suis très intrigué par l'idée d'associer les deux au milieu de terrain, même si l'âge d'Adli, tu sais que s'il fait un très bon match contre Lyon, peut-être que la semaine prochaine ou même dès demain face à Lille, puisqu'on enregistre mardi 2 février, peut-être que dès demain face à Lille, il va souffrir et du coup il va falloir le remettre en question, etc. Mais le fait est que Adli, Seri, Ben Arfa au milieu de terrain, forcément, ça m'emballe beaucoup plus que Otavio, Basic, De Préville l'année dernière, par exemple. Bon, en tout cas, donc, il y a plus de choses à regarder, on va dire.
Il y a un truc qui peut être cool, s'ils arrivent à retrouver l'entente qu'ils avaient à Nice, c'est l'association Seri-Ben Arfa. Parce que c'était assez sympa de les voir jouer à Nice. Et il y avait des matchs où Seri jouait en 10 derrière un Ben Arfa attaquant. Il y avait des matchs où Seri jouait relayeur derrière un Ben Arfa 10. Donc, ce serait assez cool. D'ailleurs, j'ai l'impression que Bordeaux a voulu reconstruire le milieu de Nice, parce qu'il y avait, il y avait aussi la rumeur Cosiello.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Ça aurait été assez fun. Enfin, je sais pas, t'as l'impression que c'est Lucien Favre ou Claude Puel qui faisait le recrutement, et pas du tout. Ils sont pas présents dans l'histoire. Mais c'est assez curieux de voir ça. Et d'ailleurs, vous auriez pu récupérer Le Marchand, mais je crois qu'il est parti, si je ne m'abuse, en D2 de je sais plus quel pays. Enfin, je sais plus.
Ouais, on a déjà Paul Bayce, de toute façon, derrière.
Oui, c'est vrai qu'il était à Nice aussi.
Ouais.
C'est vrai. En effet, bien vu. Alors, Cosiello, je sais pas où il en est d'ailleurs. J'ai pas suivi s'il avait trouvé
Portugal,
un point de
toujours.
Chute ou pas. Toujours au Portugal. Bon,
il me semble.
C'est malheureux. Voilà pour Jean-Michel Seri. Et je vais retourner voir Christophe pour parler d'un ancien attaquant monégasque. On a parlé tout à l'heure de Ben Yedder et de Voland. En effet, les deux attaquants dodus de l'AS Monaco, mais qui font très bien jouer, qui font très bien jouer l'ASM. Là, c'est Slimani qui avait vraiment brillé sur une demi-saison en attaque à côté de Ben Yedder, Christophe, et qui vient à Lyon pour remplacer Dembélé. Qu'est-ce que tu penses de cette bascule qui est à la fois financière mais aussi générationnelle, puisque Dembélé était un joueur en première partie de carrière et que là Slimani arrive et je crois qu'il a déjà 32 ans, donc il est plutôt sur la fin. Ça va être une solution en sortie de banc. Et moi, la question que j'ai envie de te poser, Christophe, pas forcément qui va gagner ce deal, parce que je pense que c'est bien pour les deux et qu'il n'y aura pas forcément de perdant quoi qu'il en soit, mais dans quelle position devant tu vois Slimani? Parce que Depay a un rôle un peu particulier, Slimani est capable de faire jouer mais aussi d'attaquer la profondeur, capable de presser. Comment tu le vois s'associer aux attaquants lyonnais?
Bah déjà, ça me fait plaisir de revenir dans cette émission, parce que j'avais des choses à dire sur Diata, série aucune sur Slimani, donc ça me fait très plaisir que tu me lances sur Slimani.
Bah vas-y, fais un aparté, comment... Christophe, si tu veux, fais un tunnel. D'habitude, tu dis que t'as rien à dire sur un truc, et après tu fais 3 minutes, donc là, tu peux faire une seconde en ayant dit que t'avais un truc à dire sur Diata et série.
Non, Diata, les deux sont vainqueurs, et le côté que de tweeter Guillaume Gauthier, parce que j'avais préparé mes petites notes, etc., en pensant bien sûr que j'allais intervenir, hein, que cette émission était bien préparée, bien animée, visiblement. Diata avait l'avantage de jouer couloir droit pour un droitier, ce qui peut donner des centres pour les deux joueurs de surface, alors qu'ils ne sont pas que ça, mais qui sont deux joueurs qui sont à droit dans la surface, avec aussi un côté, alors c'est Guillaume qui le disait, hein, mais un côté un peu numéro 10 excentré. Donc là-dessus, c'est intéressant de voir qu'en Belgique, c'était pas simplement un mec qui profitait de ses qualités physiques, qui était aussi capable d'avoir un côté un peu meneur de jeu. Donc ça, c'est intéressant. Et pour Seri, tu m'aurais annoncé le truc il y a 2 semaines. J'aurais dit c'est bien pour le joueur, pour le club. Je vois absolument pas l'intérêt vu que Bordeaux n'a rien à jouer. Et finalement, le classement totalement improbable de Bordeaux, qui est quand même relativement favorable vu la première partie de saison, plus le fait que Bordeaux ne se ruine pas à payer un salaire complet, loin de là, je me dis que finalement Bordeaux est aussi gagnant et pourquoi pas, alors peut-être pas arracher une place européenne, hein, mais en tout cas finir une saison où chaque place te donne un peu plus de budget avec les primes, etc. Donc c'est intéressant. Et puis voilà, c'est pas juste pour passer de 13e à 11e. Là, tu peux vraiment lancer une dynamique. Donc le choix me paraît pas mal. Sur Slimani, c'est vrai que pendant ce pareil, penser que c'est gagnant-gagnant, plutôt gagnant pour le joueur, parce qu'il était relativement borduré, voire même côté totalement borduré du côté de Leicester. Après, ce que tu disais, qui est quand même un truc intéressant, c'est que... d'ailleurs, tu dis beaucoup de choses intéressantes, hein, disons-le. non, mais le truc, c'est qu'il remplace Dembélé, que Dembélé jouait pas spécialement, et qu'en fait, tu te dis, qu'est-ce qui fait que le profil de Slimani différerait tant du profil de Dembélé, et qu'est-ce qui pousserait à changer l'animation à 3, avec un numéro 9 qui décroche, et 2... on va dire attaquant de couloir qui prennent la profondeur et qui dans les faits c'est un peu comme si t'avais parfois ça ressemble un peu à une forme de losange sur certaines phases où Depay va limite se retrouver 10 et les autres seraient deux attaquants, c'est juste qu'ils partent d'un petit peu plus loin. Et c'est vrai que Slimani a un profil capable de garder les ballons dont j'ai du mal à cerner niveau technique parce qu'il a jamais été un technicien incroyable et que pendant quelques mois à Monaco t'avais l'impression que c'était Michael Laudrup. Donc je sais pas trop, mais j'ai pas envie d'investir trop d'émotions dans ce transfert parce que j'ai peur pour lui que ça soit un peu comme Dembélé du côté de l'Atlético. Ça t'offre une variété quand vraiment ton plan A marche pas, mais que dans l'absolu, je le vois pas occuper l'une des deux cases, avoir la vitesse pour prendre la profondeur, type Kadewere, Toko, être même le joueur qui vraiment va être capable de faire d'autres choses, de presser, etc., que peut être Kadewere. Et en neuf, ok, il peut garder les ballons et lancer les autres. Est-ce qu'il peut être pertinent si tu le fais reculer de 10 mètres, si tu lui demandes de jouer en appui remise comme les deux pailles? J'avoue que j'ai 2-3 doutes quand même. Mais bah, pour lui, dans tous les cas, c'est mieux que de Cyril Mort. Hein, donc...
En fait, si c'est le Slimani de Monaco, toutes les réponses à tes questions sont oui. Parce qu'à Monaco, il était c'était beaucoup trop fort ce qu'il faisait. C'est-à-dire que c'était un mec de niveau Ligue des Champions. Il pressait, il attaquait la profondeur, il combinait avec Ben Yedder, il décrochait pour derrière claquer des centres ou des passes en profondeur parfaite. Et cette version-là, je ne sais pas si elle existe encore, si on l'a rêvé, s'il a été dans un état de grâce pendant quelques mois. Mais s'il est capable de faire tout ça, il peut faire Kadewere, il peut faire Depay, il peut faire Toko. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Parce que dans l'idée, si c'est le Slimani Monaco, en termes de niveau, t'es quasiment obligé de le faire jouer.
Après, est-ce qu'il existe encore ce Slimani-là? Est-ce qu'il a même existé sur toute sa période Monaco? Parce qu'à la fin, il jouait plus. Alors, il n'y a pas que l'aspect sportif, mais ça commençait déjà à ralentir un peu.
Ouais, je sais pas, mais enfin, à un moment, il faudra faire, toute une série ou une saga sur Coparena sur les 6 mois de Slimani à Monaco et débriefer toutes ses actions et tous ses matchs. Parce que j'ai rarement vu un mec de ce niveau-là alors qu'on n'en attendait rien. Et c'est ça qui était. Enfin, on n'attendait rien. Ça a toujours été un bon joueur, un bon élément, mais enfin, pas un mec comme ça capable d'écraser un championnat de bon niveau européen. Donc, très curieux de voir ce que ça va donner à Lyon et s'il va avoir assez de temps de jeu. Bascule parfaite pour parler de Dembélé. Christophe, tu l'as cité, tu te plaignais de ton temps-parole, donc je vais te relancer là-dessus. Dembélé qui arrive dans un Atlético bien parti pour être champion d'Espagne, puisqu'ils ont 10 points d'avance et en plus un match en retard. Si je ne m'abuse, je crois que c'est ça. Si j'ai bien révisé mes fiches, 10 points d'avance sur le Barça et le Real. Ils marchent sur l'eau depuis le début de la saison. C'est peut-être la seule équipe en Europe, avec City depuis quelques semaines, qui parvient à garder un rythme digne des saisons précédentes et d'une saison normale sans Covid. C'est-à-dire qu'ils sont à 2,5 points par match, voire plus. Ils n'ont quasiment pas perdu de la saison. Comment tu vois son adaptation dans cet Atlético-là, pardon, qui a beaucoup changé en quelques mois, puisque ce n'est plus un 4-4-2, ça n'attaque plus pareil, ça ne combine plus pareil. Quel rôle peut-il tenir dans cette attaque des Colchoneros?
Jouer quand tu affronteras des équipes de division inférieure en coupe, mais visiblement pas cette année, puisqu'ils sont éliminés. Donc les années suivantes, rentrer quand il y a 3-0 et qu'il faut faire souffler les titulaires, ou vraiment sur des matchs où tu n'as pas forcément tout ton effectif à disposition et tu estimes qu'il peut t'apporter quelque chose sur un poste de remplaçant. Mais honnêtement, peut-être que je suis négatif, hein, mais quand je vois que ton attaque titulaire, a priori, les deux meilleurs, c'est João Félix, qui est ton joueur le plus complet offensivement, et Suarez, qui est meilleur buteur du championnat, qui est quasiment un but par match, et vraiment dans une super forme, que derrière t'as des profils type Angel Correa, que tu peux même mettre, même si là il est un peu baladé partout, il joue un coup piston, un coup milieu offensif, mais tu peux dans l'absolu mettre un Llorente deuxième attaquant. Pour moi, Dembélé n'est pas dans les trois premiers noms que tu coches sur ta feuille de match, et pour moi ça sera un rôle de remplaçant, comme il avait plus ou moins un rôle de remplaçant à Lyon. J'avoue que c'est pas que ce deal n'a pas d'intérêt, hein. C'est Dembélé quand même un joueur qui a marqué pas mal de buts en Ligue 1, qui a joué sur des matchs de Ligue des Champions, même si c'était plutôt sur des rentrées, mais il marque contre City, etc. Donc c'est pas du tout un mauvais joueur. Tu vois, tu parlais tout à l'heure de Le Marchand qui va à l'Antwerp. Là, bon, ça nous intéresse déjà beaucoup moins. Là, c'est quand même un transfert relativement marquant. Mais dans l'organisation actuelle de l'Atlético, en fait, je vois pas comment, sauf blessure, il pourrait jouer un rôle majeur, parce qu'à la fois dans son profil et dans ses qualités, je le vois quand même relativement loin des joueurs qui actuellement sont au top niveau. Donc pour lui, j'ai tendance à penser que c'est plus un bon coup pour le club, qui se donne une solution supplémentaire pour avoir un joueur bon de la tête et qui peut aussi prendre la profondeur, que pour lui, parce que je suis pas sûr. J'ai l'impression que c'est un peu comme les Kondogbia qui a été pris au milieu de terrain, là je crois que c'était vers novembre, mais qui est plus là pour un peu faire le nombre et faire souffler, rentrer dans une forme de rotation, que vraiment pour arriver et débarquer en tant que joueur majeur.
Je suis presque de l'idée, Christophe, que le vainqueur du deal, c'est Lyon, qui arrive à choper une option, je crois, à 35 millions en 2021. Et ça me paraît plutôt bien joué. Alors, je connais pas les conditions pour qu'elle soit levée ou non.
Elle,
Mais...
elle n'a pas l'air d'être obligatoire, en tout cas. Elle est pas, c'est, l'obligation n'est pas évoquée. Donc,
Okay.
Non, mais ça va lui faire un titre en plus. Bon, faut qu'il entre en jeu, hein, quand même, pour ça. Mais, pour l'instant, ça peut lui faire un titre en plus. Après, il est blessé, là. Il est arrivé, il était blessé, je crois. Il s'était fracturé le bras, il me semble, je crois, avant de partir. Mais comme le dit Christophe, oui, il va être en bout de banc, il va peut-être, faire ses premières apparitions justement quand la Coupe d'Europe va revenir et qu'il faudra faire souffler les titulaires le week-end pour les garder frais pour la Coupe d'Europe, si tant est que l'Atlético franchisse le huitième de finale. Je crois que c'est contre Chelsea, il me semble. Mais voilà, aujourd'hui, ça va être une solution de bout de banc pour l'Atlético. Après, à lui de faire en sorte que l'option soit levée. Peut-être que à moyen terme, il y a des perspectives pour lui, parce que Suarez n'est pas non plus éternel. Maintenant, ouais, s'il espérait jouer plus en passant de Lyon à l'Atlético, je pense que ça risque d'être un peu compliqué.
Bah, après, l'Atlético, Diego Costa, hein, qui ouais, est parti, mais Diego Costa jouait pas trop, donc.
C'est ça. Après, l'Atlético aura plus de matchs à jouer que Lyon d'ici la fin de saison, logiquement. S'ils vont loin en Ligue des Champions, vu que Lyon n'a que le championnat et que du coup Dembélé se retrouve un peu bloqué. Avec un 11 qui ne bougeait pas parce que ça tourne pas trop mal. Donc il y a ça aussi qui entre en jeu, mais pour ça, il faut que l'Atlético passe des tours en Ligue des Champions.
En fait, ça a du sens, je trouve, si l'Atlético veut le garder. Alors ça, on peut pas savoir, on n'est pas dans le secret des clubs, mais s'ils veulent le garder et en faire un peu le successeur de Luis Suarez, hein, je dis avec les guillemets successeur, mais en termes de chronologie, parce que Luis Suarez n'est pas tout jeune et que je pense qu'il va pas faire 5 ans à l'Atlético. Donc ce serait l'idée de reprendre un peu le rôle de Diego Costa et le profil, mais il y a quand même enfin il faut que les progrès soient énormes pour qu'il soit au niveau de l'Atlético, parce que sur le plan technique il y a des choses qu'il sait pas faire et que Diego Costa savait très très bien faire. Donc je suis un peu intrigué par ce transfert et j'ai peur que ce soit un délire de 6 mois et comme tu l'as dit Flo, choper un titre et revenir. Et je sais pas quelle est sa valeur aujourd'hui sur le marché des transferts. Je crois qu'on l'avait déjà évoqué dans un épisode il y a un an ou deux, ou je sais pas, peut-être 6 mois de vue du banc, en disant mais le Lyon a refusé 40 millions pour lui, quand est-ce qu'ils vont retrouver une telle offre? Bon, là ils ont une option à 35. Je pense que si elle est levée, Lyon sera très content vu l'évolution du joueur et la concurrence maintenant au club qui lui fait perdre de la valeur aussi du côté de l'OL.
Il a pas 19 ans non plus, hein.
Ouais, 24,
même,
ouais.
Il a quand même 24 ans, fin de saison il a 25. Il n'y a pas non plus énormément de signes qui te feraient penser qu'il a une marge de progression incroyable. Alors je vais pas dire que c'est une bulle ou quoi que ce soit, mais il y a quand même des joueurs qui, venant d'un club d'un certain standing, ne vont forcément retrouver d'autres emplois. Ils vont pas redescendre trop bas. J'ai l'impression que c'est un peu ça, c'est-à-dire que tu mets le même joueur, mais tu le mets pas à Lyon. Tu le mets même avec les mêmes stats, hein, mais dans un club un petit peu moins huppé de Ligue 1. Je pense qu'il va beaucoup plus bas, en tout cas il va plus bas, quoi, plus sur des profils à la Valence ou autre, à mon avis. Sous le joueur, moi j'ai jamais été totalement convaincu et j'ai l'impression qu'il est un petit peu c'est un petit peu trop haut pour lui. Maintenant, parfois ça crée une émulation et ça te pousse à montrer toutes tes qualités, donc on verra.
Bah, on verra ça dans les mois qui arrivent. Parlons d'un joueur qui est lui un peu plus jeune et qui a été, alors qui a signé mais qui n'est pas encore transféré définitivement puisqu'il est resté dans son club actuel, c'est Mohamed Simakan, le défenseur central slash milieu défensif slash latéral droit de Strasbourg, Florent, qui peut jouer un peu à tous les postes, qui va être, je sais pas, le nouveau Mukiele de Leipzig.
Ouais, c'est ça.
le mec qui en Ligue 1 était bon, qui est peut-être meilleur aujourd'hui que ce que faisait Mukiele en Ligue 1. Il me semble un peu plus complet en tout cas que ce que faisait Mukiele, et qui va succéder sans doute au défenseur central français qui partira de Leipzig c'est l'été qui vient, donc soit Konaté, soit Upamecano, soit les deux, c'est pas impossible.
Soit Mukiele,
c'est vrai, mais je me disais peut-être que tu vois, il y avait un des deux, Upamecano, Konaté, qui allait partir, et que la défense, ça se trouve, ce serait Mukiele replacé dans l'axe, Simakan avec lui, ou Simakan à droite, ou Simakan dans l'axe avec Mukiele, enfin je sais pas, il y a plein de possibilités. Qu'est-ce que tu penses de ce transfert là, enfin, j'ai tendance à penser que quand un joueur signe à Leipzig, le joueur est souvent gagnant.
Oui, non, j'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ce que tu as dit. Donc ça va être très court, mais ouais, bah c'est Leipzig qui a 6 mois d'avance et qui dans sa planification sportive, un mot que vous avez beaucoup utilisé dans Tout Simplement Ligue 1,
c'est vrai.
a déjà jeté son dévolu sur le successeur, en effet, soit d'Upamecano, soit de Konaté, soit de Mukiele. Je pense qu'en termes de profil, ça se rapproche plus de Mukiele, même si Macan a assez peu joué piston quand même avec Strasbourg, il était plus central droit ou central axe. Mais voilà, c'est juste Leipzig qui a 6 mois d'avance et qui anticipe et qui fait un très bon move, et Simakan qui aussi, puisque là les gagnants, je pense que ce sont les deux, parce que rares sont les joueurs quand même qui rejoignent Leipzig et qui réussissent à perdre de la valeur là-bas ou à baisser de niveau voire disparaître. Donc très bon coup pour tout le monde et aussi pour Strasbourg qui rentre 10 ou 15 millions je crois d'euros.
15 ouais.
Et je pense que ça ne leur fera pas de mal vu la situation actuelle.
Ouais. Il y avait eu les rumeurs Milan je crois pour Simakan, j'ai jamais su ce qu'il fallait dire. Christophe, mais en termes d'intensité et de style, je trouve que ça lui colle très bien la Bundesliga.
Oui, pour moi c'est le meilleur transfert de l'histoire. Alors j'espère qu'il ne va pas se rater, mais clairement c'est le truc le plus évident d'avoir un défenseur polyvalent et qui est effectivement capable, quand tu le mets dans le couloir, d'apporter offensivement. Je sais même plus contre qui c'était, mais une fin de match où Strasbourg poussait pour revenir au score et il était à moitié ailier, tout ça, et tu voyais que dans un contexte très précis, hein, mais dans la surface, à l'approche du but, il avait des qualités et que c'était pas juste, il faut partir d'assez bas. Ou finalement Mukiele, quand il jouait côté avec Montpellier, c'était beaucoup plus brut. Et quand tu vois ce qu'il est capable de faire aujourd'hui en tant que piston d'une défense à 3, c'est quand même très intéressant. À Milan, c'est quand même beaucoup plus rigide. Alors je dis pas qu'il faut que les systèmes ne soient pas rigides, hein, mais c'est clair qu'il aurait été fixé soit sur un poste de défenseur central, soit sur un poste de latéral. A priori, plus de défenseur central. Il y aurait peut-être eu moins de concurrence, mais finalement, voilà, t'es dans un système relativement rigide. Ton 4-2-3-1, ça restera un 4-2-3-1. Là, à Leipzig, ça change parfois 3-4 fois par match. Tous les joueurs sont amenés à occuper, même d'un match sur l'autre, des postes très très différents. Type Nkunku à Aïdara qui se retrouve un coup latéral, un coup faux numéro 9, un coup relayeur. Enfin, donc voilà, t'as toujours l'occasion d'élargir ta panoplie. Et ouais, vraiment, en plus, dans ses qualités d'impact, d'intensité, dans sa jeunesse aussi, c'est tellement logique finalement que ça m'aurait embêté que ça se fasse pas. Alors j'espère pour lui qu'il sera pas blessé, parce que là il est actuellement, il va se remettre tranquillement, il va pouvoir finir la saison avec Strasbourg, et j'espère qu'il me fera pas mentir en démontrant que finalement son plafond était pas si haut que ça. Mais on parle d'un joueur qui a été recalé des centres de formation, etc., qui a dû repasser un peu par le monde amateur, et qui, je pense, du coup, est encore en formation, post-formation. Enfin, je pense qu'il est pas totalement fini, et ce qu'on voit d'un produit encore en développement est vraiment très intéressant, même à l'échelle de la Ligue 1. Donc si tu me dis qu'il est titulaire l'an prochain en quart de finale de Ligue des Champions, je trouverais ça relativement normal. Même si effectivement on se pose la question de le poste à remplacer, a priori ça sera Upamecano. Or, est-ce que tu voudras le fixer dans l'axe ou est-ce que tu voudras en faire un joueur un peu plus polyvalent, sachant que forcément tu bouges plus les latéraux de place que vraiment les charnières où t'as tendance à installer ta défense centrale et à plus trop la toucher ensuite.
Merci Christophe pour cette conclusion sur les joueurs concernés par la Ligue 1. On va partir en Première Ligue. Alors il y a pas mal de joueurs qui ont bougé à l'intérieur du championnat ou qui sont venus d'autres championnats. On va se concentrer sur deux d'entre eux. D'abord parler de Odegaard, Florent, qu'on avait cité lors de l'épisode du jeu de l'agent.
Le jeu de l'agent, oui.
Pour les joueurs à sauver. Bah finalement il a été sauvé par Arsenal. Alors on
est-ce qu'on peut être sauvé par Arsenal?
Peut-être que lui va sauver Arsenal, on va voir. Mais on avait évoqué la possibilité Séville pour lui. Bon, c'est un autre joueur à sauver qui est parti là-bas, on en parlera après. Il est parti à Arsenal qui a déjà trouvé un meneur au sein du club, c'est Emile Smith Rowe, le jeune, mais là ça en fait un de plus. Par rapport à ce que fait Arsenal et ce que lui a connu dans sa carrière, notamment du côté de la Real Sociedad, est-ce que tu penses que c'est un bon move pour lui? Parce que, enfin, que le Arsenal soit gagnant, je trouve ça évident, parce que ça leur fait un bon joueur pendant 6 mois, je crois qu'il n'y a pas du tout d'option, mais au moins ça peut amener de la qualité, et au pire, bah, si tu vois qu'il ne peut pas vraiment apporter, tu le laisses sur le banc pendant 6 mois et tu continues avec Smith Rowe, donc ça dépend comment tu gères ça. Est-ce que Odegaard peut sortir gagnant de cette histoire?
C'est assez compliqué à dire, parce que, tu vois, alors c'est pas tout à fait le même rôle ni la même position, mais quand Ceballos signe Arsenal, qui arrive d'ailleurs en prêt du Real Madrid et qui est d'ailleurs toujours en prêt du Real Madrid, il me semble, tu te dis bon bah ça va, c'est bien là avec Arteta, ça va coller et les choses vont bien se passer. Et puis en fait Ceballos, t'as jamais l'impression qu'il a su décoller. Je suis même pas sûr qu'il soit vraiment un titulaire dans cette équipe. Il a fait moins de la moitié des 11 de départ de l'équipe cette saison. Voilà, c'est un mec dans la rotation, mais c'est pas un mec qui s'est imposé. Et j'ai beaucoup de mal à juger et à jauger ce que peut apporter Odegaard à court terme à cette équipe, parce que tu le dis, ils ont quand même des. En fait, ils ont plein de joueurs qui sont talentueux sur des coups, certains matchs. Smith Rowe peut être très bon, Saka peut être très bon, Ceballos peut être bon, Odegaard pourrait être bon, mais est-ce que c'est quelqu'un qui va être assez bon pour être le gars qui ne bougera pas de l'équipe et qui jouera pendant 6 mois tous les matchs? Ça, j'en suis pas non plus ultra convaincu. En plus, Arteta a l'air d'aimer pas mal la rotation. Donc, pour lui, je sais pas. Comme tu le dis, pour Arsenal, c'est une bonne solution, parce que c'est un joueur de plus pour un coach qui aime bien faire tourner ses équipes et ses milieux de terrain, c'est intéressant. Maintenant pour lui, est-ce qu'il va réussir vraiment à enchaîner les matchs d'ici la fin de saison et finir avec une vingtaine de matchs joués par exemple? J'en suis pas non plus ultra convaincu. Donc de toute façon, il jouera plus qu'au Real Madrid vu comme c'était parti, ça c'est certain. Donc si tu prends ce côté-là, c'est positif. Mais est-ce qu'il jouera assez pour dire il a réussi son expérience à Arsenal et il s'est imposé, et peut-être qu'Arsenal essaiera de le garder? Là, j'arrive pas non plus à trop me prononcer.
J'ai l'impression, Christophe, que ce transfert, il hésite entre deux objectifs. Un, c'est se montrer à Arsenal et qu'un autre club puisse l'acheter l'été qui vient, ou peut-être dans un an quand les sous seront de retour dans le foot. Ou deux, faire passer le temps pendant que Modric, Kroos et compagnie vieillissent, peut-être que Isco s'en aille, que le Real tire un trait sur certains éléments offensifs. Se donner du temps, en fait, pendant que Zidane, pour l'instant, n'en a pas pour lui.
Ouais, mais pourquoi se donner du temps à Arsenal? C'est ça qui m'interroge. Parce que la définition du prêt dans ce contexte-là, où en plus, avec Marca a annoncé que Zidane partira en fin de saison, et Zidane a quand même toujours eu du mal, alors il a fait beaucoup de choses très bien, mais utiliser des numéros 10 dans son profil, c'était généralement assez compliqué. Il fallait qu'il soit vraiment capable de jouer beaucoup plus bas, numéro 8. D'ailleurs, ça me fait penser que Pirlo n'arrive aussi pas à utiliser des joueurs de son profil qu'il avait quand il était joueur, comme quoi entraîneur-joueur, t'as jamais la même approche. Mais que Odegaard part en prêt, oui, c'est logique, puisque de toute façon, je crois qu'il avait joué 5 minutes en 2021. Maintenant, pourquoi Arsenal, qui, un, joue en Première Ligue, et la Première Ligue, je trouve que cette saison, elle est un peu moins joueuse qu'elle l'était il y a 1, 2, 3 ans. Et donc, moi, je dis pas qu'on est revenu au kick and rush, hein, loin de là, mais je suis même pas sûr que ça soit le championnat où vraiment il y a le plus de ballons au sol, le plus de jeux, le plus de projets vraiment bien définis. Deuxièmement, pourquoi Arsenal, qui a des résultats moyens, même si ça redresse la barre, ce qui est fait dans le jeu, même sur les matchs où ça gagne récemment, mis à part celui du week-end où c'était un nul, mais même là, je vois pas une amélioration spectaculaire de la façon dont ça joue. Et troisièmement, comme tu le disais, il y a Emile Smith-Rowe qui n'est pas en prêt, qui est là, qui est jeune, qui montre des nouvelles choses quasiment chaque semaine, parce qu'il est encore très neuf, donc du coup, on le découvre et lui-même se découvre, et il a en plus ce côté où je trouve qu'il garde pas trop la balle, il arrive vraiment à plutôt bien faire jouer ses partenaires, et dans la manière dont cette équipe d'Arsenal est organisée, c'est je trouve ce qu'il faut à l'instant T. Donc du coup, j'ai l'impression, pour moi, qu'il vient en tant que remplaçant d'un jeune qui a toutes les raisons d'être privilégié à lui, dans un championnat qui est peut-être pas le meilleur pour lui. Donc et dans un club qui n'est pas non plus celui qui va avoir 65% de possession et pourra aligner des numéros 10 un cran plus bas. Donc j'ai peur que le joueur soit extrêmement perdant, tout en reconnaissant la valeur de quelqu'un qui était pour moi pas loin d'être le meilleur joueur de Liga jusqu'à la pause sanitaire. D'ailleurs, j'ai vu que Silo l'avait tweeté, je sais pas s'il en a fait un article ou pas, mais il était d'accord avec moi, ou j'étais d'accord avec lui plutôt, sur ce côté de garde vraiment top top joueur. Mais là, à sa place, j'aurais cherché une équipe qui joue un 10, avec un 10, mais qui n'en a pas. Et là, pour moi, Arsenal en a un. Sans option en plus, pourquoi est-ce que tu le mettrais lui, Voilà, t'as même pas de priori de qualification européenne à décrocher où tu te dirais, bon, je vais mettre de garde sur 4 matchs et tant pis pour le jeune, il reviendra l'année suivante dans la boucle. Donc je comprends pas bien, mais je demande qu'à être démenti parce que c'est toujours triste quand des joueurs pareils sont sur le banc et ne jouent pas.
J'ai l'impression qu'il y a un truc qui l'a payé, c'est le fait que comme le Real domine pas le championnat et même pas dans les deux premiers facilement, bah, ils allaient pas le prêter à Séville qui par exemple est à la bagarre pour la Ligue des Champions avec eux. Et tu vois, on avait parlé lors de l'épisode du jeu de l'agent. Alors l'autre.
A priori, ouais. c'était vraiment un argument du Real. Il voulait pas le prêter en Liga, si j'ai bien suivi.
Il y a un point d'écart là entre le Real et Séville. Donc, et Villarreal est pas extrêmement loin. Tu sens que c'est une saison galère. Est-ce que vraiment tu veux prendre le risque de renforcer un vrai concurrent, même si pour le titre, je pense que les mecs commencent à se dire que l'Atlético va être difficile à rattraper. Puis l'autre option, ça aurait été l'Italie. Finalement, je pense que ça aurait pu correspondre, mais je vois pas quel club. Pouvait lui proposer un projet intéressant, peut-être l'Inter pour remplacer Eriksen, mais il était trop jeune pour Conte, donc c'était pas possible.
Bah, c'est surtout que j'aurais bien vu à l'Atalanta, mais ça aurait été un problème avec le tirage de Ligue des Champions.
J'aurais bien vu à la Lazio, moi, mais ils avaient pas spécialement de besoin au milieu.
Ouais,
mais, j'aurais bien vu là-bas.
Ouais, mais c'est vrai, bah, si Luis Alberto était parti, je pense ça aurait pu coller. Bon, on verra bien comment ça va se passer pour Odegaard. Je veux juste qu'on fasse un petit point, Christophe, parce que c'est un peu un de tes joueurs fétiches, et je le connais pas bien. Et il est arrivé à Liverpool, donc je vais apprendre à le connaître. C'est l'ami Kabak, le palindrome. On aime toujours les palindromes. Il aurait peut-être dû signer dans un club comme Laval, ça aurait été génial. Kabak à Laval. Mais alors, c'est un joueur qui a été catastrophique cette saison dans un club qui l'était encore plus. Est-ce qu'il y a quand même des qualités qui vont me rassurer? Ou est-ce qu'il a touché le jackpot, comme dirait Gilbert Bribois, et il a profité d'un contexte fou à la fois du côté de Schalke et de Liverpool pour signer? On rappelle que Mustafi a fait le chemin d'Arsenal à Schalke pour le remplacer.
Bah, je pense que n'importe quel autre club l'aurait recruté. J'aurais rigolé, je me serais lancé dans une tirade incroyable sur ce joueur dont je ne comprends pas les qualités et qui parfois a des erreurs défensives qui ne sont absolument pas imputables au contexte de Schalke, qui expose beaucoup sa défense, qui prend des wagons de buts en permanence. C'est vrai que je me souviens notamment face au Bayern. Alors il y en a plein, hein. Chaque semaine c'était mon running gag, je t'envoyais les buts de Schalke où il était impliqué, mais typiquement il est au duel avec Lewandowski, et au lieu de lui boucher l'angle du but, il fait le tour par l'extérieur, et du coup il laisse Lewandowski tirer, et lui défend la ligne de touche. Enfin, c'est un truc où tu te dis, mais c'est une blague, qu'est-ce qui se passe? Donc ça aurait été n'importe quel au club, j'aurais dit bah non, Kabak est parmi les pires défenseurs que j'ai vus en première division européenne ces dernières années. Maintenant, Liverpool a des datas que je n'ai pas, et une science du recrutement, et observe les joueurs, etc. Donc je me dis qu'ils ont dû voir ce que je n'ai pas vu. Mais même dans les, c'est-à-dire même si tu prends l'approche statistique, alors ça va un tout petit peu depuis quelques semaines, mais Liverpool le suivait déjà avant, et je crois que c'était le 20 décembre où il avait la pire note who scored en Allemagne. Il était genre à 6-0-8 avec des buts coûtés, pas assez de duels gagnés, son carton rouge parce qu'il a craché sur un adversaire. C'est toujours sympathique en temps de Covid.
Il faut nuancer quand même, Christophe, en précisant que la plupart des joueurs de Schalke sont en dépression sévère. Hein. Toutes les notes sont catastrophiques, tous les matchs sont catastrophiques. Alors, ils ont quand même gratté quelques points. Mais je veux dire, pour la plupart des joueurs, c'est la pire période de leur carrière.
Oui, bien sûr. Et c'est vrai que la sienne est jeune. Mais je veux dire, même sur... sans parler de mon ressenti visuel, où je le vois sortir à contre-temps, oublier des gens en marquage, couvrir. Bon, après, c'était lui qui était souvent le référent de la défense. Il alternait, il y a eu Sané, du Stambouli, donc... c'était peut-être beaucoup lui demander d'être le taulier, mais c'est-à-dire que si je me dis bon, ouais, peut-être que j'ai vu les mauvais matchs et que je regarde les stats, même sur les stats, il ressort négativement. Donc je ne sais pas, je ne comprends pas, mais en même temps, la défense de Liverpool, là, c'est tellement n'importe quoi, aligner une charnière différente chaque semaine, je crois qu'ils en sont en 12 en 21 matchs, quelque chose comme ça. Pourquoi pas, mais là, comme ça, je ne vois pas. Autant McKinney... peut-être pas à ce niveau-là, mais tu sentais que le mec sortait un peu du lot dans une équipe à la dérive l'an dernier, et puis il est excellent à la Juve. Autant là, c'est pas du tout un maillon fort qui ressort un petit peu de cette équipe-là, quoi. Donc,
je crois qu'une des seules stats qu'il a de positive cette année, c'est les duels aériens. Et dans le projet de Liverpool, il faut quand même être assez fort dans ce domaine parce que les équipes vont attaquer là-dessus. Et depuis la blessure de Van Dijk et les indisponibilités de Matip, c'est de plus en plus dur. On rappelle que là, Matip s'est blessé, je crois, tendon d'Achille. Donc il est reparti pour 6 mois de blessure. Et donc les 3 premiers centraux de Liverpool, Van Dijk, Gomez et Matip, sont blessés simultanément jusqu'à la fin de la saison. Qu'ils avaient commencé la saison avec 3 centraux, ils la finiront avec 0 centraux, originaire du club, au début de la saison. Ils en ont recruté deux, donc Kabak et Bain Davis, pas celui de Tottenham, mais un homonyme qui jouait à Preston en deuxième division. Et qui, clairement, sur les vidéos de présentation, je pense, n'est pas sûr de la véracité de son contrat. Parce que, il est, enfin, c'est... on fait souvent la blague du Make-A-Wish où. Bon, il a un rêve qui est réalisé juste pour un jour et après il s'en va. Et là, c'est vraiment le profil. Le gars est hyper frais, c'est l'opportunité d'une vie pour lui. Je suis curieux de voir ce que ça va donner et si ça va surtout permettre à Henderson et Fabinho de remonter un peu plus haut sur le terrain. Passons à la Liga. On avait parlé de Papu Gomez en longueur dans l'épisode du jeu de l'agent, Florent. Oui. Je ne sais même plus où on l'avait envoyé, mais on avait parlé de Séville. On avait cité cette possibilité. On avait cité aussi beaucoup l'Atlético. Parce qu'il y avait des rumeurs et qu'en plus il connaissait Simeone. Bon, finalement, c'est bien du côté de Séville et de Lopetegui qui va renforcer l'équipe. Et ça va beaucoup aider Séville parce qu'on avait dit qu'ils n'avaient pas de meneur, pas de créateur. Bah là, ils en prennent un des meilleurs d'Europe ces dernières années.
Ouais, ils prennent un créateur excentré qui va pouvoir faire encore mieux ce que faisait parfois par intermittence Suso sur quelques matchs. Qu'il était capable de faire. Et c'est vrai qu'avec Papu Gomez, moi j'ai on en parlait avec Christophe dès qu'il a signé, mais j'ai immédiatement un circuit de finition où il va prendre la balle dans le demi-espace gauche, il va aller fixer un ou deux joueurs face à lui, il va porter la balle et puis à sa gauche, il y a le latéral qui va débouler, qui va proposer une solution de centre. Il y a peut-être un des milieux axiaux qui va faire un appel devant lui en profondeur dans le demi-espace. Et puis de l'autre côté, à droite, comme avec l'Atalanta où il avait Atobur qui proposait à la finition, il peut avoir deux appels de En-Nesyri et de Ocampos entre le central, le latéral et dans le dos du latéral. Et il va pouvoir mettre des petites galettes au deuxième poteau pour un des deux qui va arriver lancé, qui va faire mal à son défenseur et peut-être casser les cages adverses. Et en fait, ce circuit-là, il s'écrit tellement simplement dans mon esprit que je me dis qu'il ne peut qu'apparaître sur le terrain. Donc j'attends de voir la prochaine sortie de Séville. Mais oui, bien sûr, c'est un énorme apport pour le FC Séville, si tant est que Gomez débarque motivé là-bas, etc., et avec l'envie de faire des diffs et pas de partir, de démarrer sa pré-retraite dans une zone un peu plus ensoleillée que Bergame. Mais non, il n'y a pas grand chose à rajouter à ça. Je sais pas combien de temps il a signé. Je pense 2 ans. J'ai pas trop fait attention à ça.
Il me semble que c'est 2 ans et demi. Peut-être ouais, un du peu coup, plus. Ouais. Logiquement. Je crois que c'est au moins 2024. Il me semble, ou 2023, c'est assez long. Je crois qu'il va jusqu'à ses 35 ou 36 ans sur son contrat, mais de toute façon, j'imagine qu'il y avait de la concurrence et que de toute façon, le club qui allait le convaincre était un peu obligé de lui proposer ça parce que il est encore performant et il fallait battre la concurrence.
Mais globalement, oui, bah, super coup de Séville, qui a pas forcément l'habitude d'aller chercher des joueurs de cet âge-là non plus, mais qui, voilà, quand t'as une telle occasion, ils ont l'agilité, ils ont la capacité pour pouvoir faire l'effort. Parce que Papu Gomez, je pense, d'ici la fin de saison, va leur rapporter des points. Et peut-être, justement, tu parlais de la concurrence pour le top 4 et de la poursuite du Real Madrid, qui n'est finalement pas très loin devant. Peut-être qu'avec Papu, Séville devient un vrai candidat pour aller un peu plus haut que cette quatrième place qui leur est promise quasiment chaque saison.
Ouais, bah en fait, s'il avait été là dès le début de la saison, je me dis, est-ce qu'il serait aussi loin de l'Atlético? Mais bon, après, c'est refaire l'histoire. Il y a un truc qui est cool quand même, Christophe, c'est qu'on parle souvent d'institution et de respecter l'institution. Et l'Atalanta, il s'est embrouillé avec le coach, ils l'ont dégagé direct. Il n'y a pas eu d'hésitation, alors que c'est un des deux meilleurs joueurs du club depuis plusieurs années. Et ils l'ont déjà remplacé par Kovalenko, je crois, qui a signé. Donc là, pour le coup, tu sens la cohérence du club et je suis assez fan de cette conviction de se dire, bah tant pis. Enfin, ils respectent pas le coach, dehors. Je suis pour le coup, alors même si Séville va en profiter, je trouve ça très bien pour les prochains joueurs de l'Atalanta de se dire, bah même si je suis le meilleur, à partir du moment où je conteste Gasperini, je vais sauter.
Et c'est vrai que si tout le monde faisait comme ça dans tous les types de choses qui peuvent se passer dans le foot, je pense que ça serait mieux. Alors après, Gasperini fait aussi partie de ses entraîneurs, alors ça joue très bien, etc. Mais niveau caractère, c'est quand même assez compliqué, il se fait régulièrement expulser parce qu'il insulte à moitié les arbitres. Je pense que dans un vestiaire, je suis pas sûr que Gomez soit forcément à 100% en tort, mais à partir du moment où tu choisis ton entraîneur, déjà c'est plus cohérent sur la durée que de choisir un joueur. aussi bon soit-il. Et puis effectivement, ça donne une ligne de démarcation claire pour la manière dont tu envisages les relations au sein de ton équipe. Et je veux dire, si tous les gens, si dans des deals avec des agents, tu te disais, on fait pas s'il n'y a pas un agent certifié, si voilà, tu, sur tout ce qui se passe dans le milieu du foot, tu occupais des positions claires, ça pourrait te coûter à court moyen terme, mais je pense qu'au final, tu en es gagnant pour ton image de club. Donc là-dessus, je sais pas si tu peux dire bravo, mais en tout cas, totale cohérence de la part de l'Atalanta, qui en plus se paye pas du tout au niveau des résultats, parce que même si là Ilicic a pas été bon ce week-end, sinon lui porte un peu l'équipe qui est à peu près sur le même rythme de points que la saison dernière. Et pour Gomez, a priori, il faudra juste bien s'intégrer dans un système qui sera différent. Mais clairement, déjà dans le 4-3-3, il peut jouer dans l'absolu à deux hauteurs différentes. Il peut jouer soit couloir, soit même au milieu de terrain quand tu domines, parce que c'est parfois un petit peu inutile, on va dire, d'avoir un Rakitic par exemple en troisième milieu, si t'as Fernando et Johan Jordan, ton troisième qui est parfois Oliver Torres, qui lui a un profil plus offensif, mais voilà, tu peux mettre vraiment un vrai créateur pour considérer que tu vas tellement dominer que finalement il va occuper une position de meneur plutôt que de relayeur. Et donc ça peut à la fois être un petit côté Banega, même si Gomez est plus offensif, ou alors carrément prendre la place de Mounir sur le côté. Donc très bon coup. L'inquiétude, c'est de savoir est-ce que un, il va s'adapter, et deuxièmement, est-ce que le contrat n'est pas trop long. Mais ça, à la limite, c'est leur problème d'un point de vue gestion de club. Moi, je préfère penser aux sportifs et à l'apport immédiat là dans les prochains mois.
Ouais, puis l'Atalanta, alors c'est pas du niveau de Papu Gomez, n'est pas malheureux non plus, puisqu'en plus de Kovalenko, ils avaient déjà Miranchuk et le Malinois, notre ami Malinowski, qui vont
en profiter. Et Pessina pour... aussi, enfin voilà, ils ont du monde à ce poste-là.
Et le jeune Pessina qui vont tous gratter du temps de jeu, donc ils ont des joueurs pour ces demi-espaces-là où ils sont très bons. Un autre joueur qui a bougé en Liga, mais rien qu'au sein de la Liga, puisqu'il est propriété du Real Madrid, il était à Villarreal, il est parti à Retafe, c'est Kubo, Christophe, qui était très prometteur la saison précédente quand il était prêté à Majorque, qui avait fait une première partie de saison, disons, anonyme à Villarreal, puisque Emery ne comptait pas sur lui, il lui a même mis des tacles en conférence de presse. Alors il va à Retafe, qui n'est pas forcément l'équipe la plus expansive, mais qui a peut-être un poste pour lui, Christophe.
Peut-être, mais peut-être pas. Pour moi, c'est le club qui est gagnant en se donnant une solution supplémentaire et un joueur de qualité. Ce qui ne leur fera pas de mal, parce qu'ils ont beaucoup plus de mal dans la capacité collectivement à faire des différences. Donc du coup, il faut que ce soit des joueurs précis qui puissent tirer un peu l'ensemble vers le haut, parce que la Retafe pas du tout à la lutte pour les places européennes. C'est plus essayer de pas se mettre en danger pour le maintien. Mais le plan de départ de Retafe depuis pas mal de saisons, c'est le 4-4-2 à plat d'inspiration Simeone. Et dans cette animation-là, je suis pas sûr qu'il a un poste, puisqu'en plus, voilà, c'est 4-4-2, mais c'est pas 4-2-4, quoi, où au final tes joueurs de couloir sont vraiment des ailiers. Là, l'aptitude, c'est plus de mettre, alors pas tout le temps, hein, mais t'as souvent du Cucurella et du Nyom, qui, pour Nyom, est un profil presque de latéral. Et Cucurella fait des allers-retours en permanence et finalement passe autant de temps dans son camp que dans le camp adverse. Donc du coup, je sais pas trop est-ce que le plan de jeu va être amené à évoluer à long terme ou pas. Il y a eu 2-3 essais, mais là par exemple ce week-end, tu vois, j'ai même pas envie de parler de système, parce que dans l'absolu tu peux facilement lui trouver une place de 10, hein. Même tu passes en 4-4-1 par exemple, ça peut se faire. La Retafe essaie de bouger un petit peu plus au niveau de la disposition de l'équipe, mais le match de ce week-end est irregardable. C'est l'un, même sur les stats, hein, je pense que c'est l'un des pires matchs. Peut-être pas l'histoire du foot, hein, mais c'est n'importe quoi. Je crois, il y a 2 tirs cadrés. Il y a que quelques tirs dans le jeu. Les autres, c'est sur coup de pied arrêté. T'as le record de faute en première mi-temps cette saison. Je crois qu'il y en a 24. Enfin, je l'ai mis dans le banquet tactique. Les chiffres exacts. Il y a 32 duels aériens rien gagné.
On peut le lire où, le banquet tactique, Christophe?
Sur Coparena.
Ah oui, c'est ça.
Duels aériens rien gagné. Je crois que c'est 32 à 33, quelque chose comme ça. Alors que sur des matchs de Ligue 1, t'as genre 10 duels aériens rien gagné à 8. Là, c'est en gros, la balle était tout le temps dans les airs. 48% de passes réussies pour Alaves, 60% pour Retafe. Enfin, vraiment, tu te dis, si c'est pour faire ça et que le ballon vogue dans les airs et qu'on fait que des tacles assassins façon Arambari, il sera pas utile. Donc j'espère que le club va essayer de s'adapter un petit peu à Kubo, parce que là tu mets quand même un bon joueur de foot dans une équipe qui refuse un petit peu de jouer au foot. Donc même en trouvant un bon poste, si c'est pour balancer les ballons en l'air et finir tous les matchs à 10, un petit peu sceptique quand même.
On accélère et on continue de pénétrer dans la Kushly zone, puisque là vraiment ce sont des joueurs qu'il a mis dans le bilan. Alors il y a du Szoboszlai, il y a du Jovic en Bundesliga, le premier qui a fait la navette Salzbourg-Leipzig, je ne rien de pas de surprise. Le deuxième qui est retourné à Francfort, un mot rapide sur ces deux-là, et je laisserai Flo rebondir s'il en a envie, sur deux mecs qui sont pas du tout au même point de leur carrière.
Szoboszlai, c'était évident parce qu'il est dans le club un peu satellite. Salzbourg, où il était devenu presque trop fort, et à partir du moment où Salzbourg continue pas l'aventure en Ligue des Champions, c'est la logique qu'il aille du côté de Leipzig. Il est blessé, mais il peut faire tellement de choses que sur les postes, je pense qu'il va assez vite se régaler. Pourquoi pas évoluer en faux neuf, poste qu'occupe pas mal Forsberg, puisque Sorloth et Poulsen ont du mal. Mais sinon, voilà, alterner avec les Olmo, etc., pour avoir un peu ces rôles de meneur demi-espace qui sont vraiment relativement proches de l'axe pour multiplier les combinaisons et le pressing à la perte. Et pour Jovic, il fallait qu'il parte du Real parce qu'il était en situation d'échec. Il retourne dans son club précédent où il a explosé du côté de Francfort. Et là, ses premières entrées en jeu sont très positives. Il va pas bousculer André Silva si vraiment les deux sont en concurrence et que tu veux pas les associer, parce qu'André Silva est vraiment en train de marquer but sur but. Mais pour rentrer sur des fins de match, le temps de vraiment se relancer physiquement et ensuite associer les deux, ça reste plutôt deux joueurs de surface. Mais Francfort, avec ses centreurs, avec Kostic à gauche, etc., peut se passer de numéro 9 qui vraiment participe trop au jeu. Ça fonctionnait à l'époque avec Jovic, alors quand ils font demi-finale de Ligue Europa. Donc c'est vraiment le choix parfait. Je pense qu'on va se rendre compte que Jovic était peut-être pas le joueur qu'il fallait au Real et qu'il avait peut-être pas la valeur qui a été mise sur lui en prix d'achat à l'époque, mais que ça reste un attaquant tout à fait décent et qu'au niveau de la Bundesliga, il peut encore faire des dégâts.
Flo, je te laisse rebondir soit sur ces deux noms, soit enchaîner sur Sébastien Haller, qui a fait l'étonnant transfert de ce mercato de West Ham à l'Ajax, deux clubs, qui jouent à un football très très différent. Voilà, je te laisse choisir, le cas Haller m'intéresse pas mal.
Ouais, le cas Haller est quand même intéressant, parce que Christophe a déjà dit ce qu'il fallait dire sur Jovic et Szoboszlai, pardon. Et en fait, c'est vrai que le cas de Haller est intéressant parce que il était un petit peu en échec du côté de West Ham. Enfin, ça fonctionne. Ça aurait pu mieux fonctionner que ça n'a fonctionné. Je vais y arriver. Et c'est vrai que quand tu regardes simplement ses stats, en fait, depuis qu'il est arrivé quand même en Eredivisie, 6 matchs joués, mais seulement 27% des minutes jouées au total. Et en 27% donc de minutes jouées, il est déjà 2 buts et 4 passes décisives. Avec l'Ajax, donc le fameux effet Eredivisier qui est théorisé par certains recruteurs qui réduisent ou qui divisent, je sais plus exactement, les statistiques des joueurs offensifs en Eredivisier pour avoir vraiment une idée plus claire de ce que le joueur pourrait être capable de faire ailleurs. Mais voilà, il a fait 6 matchs depuis qu'il est arrivé, il a été décisif dans 5 matchs sur les 6. Et que face à Willem II, qui ne l'a pas marqué ou fait de passe décisive, on sait ce qui s'était passé pour lui à Utrecht. C'est là-bas qu'il avait explosé, qu'il avait lancé un petit peu sa carrière. Et le fait d'arriver à l'Ajax, je pense que en termes de munitions, et il risque d'être là aussi très servi. Donc je pense que pour lui, ça va très bien se passer du côté de l'Ajax. Reste à savoir si son intérêt pour lui sera de repartir ailleurs après et de s'en resservir de tremplin, ou de rester, parce que l'Ajax peut lui permettre de briller en Coupe d'Europe. On verra d'ailleurs ce qui va se passer avec le LOSC, puisqu'ils vont se retrouver dans quelques jours maintenant en Ligue Europa. Mais je pense un très bon move pour lui, et aussi un bon move pour l'Ajax, qui pour l'échelle nationale récupère un gars qui a quand même prouvé largement ses capacités à marquer dans ce championnat néerlandais.
On s'excuse pour les anglicismes, mais c'est plus rapide de dire move que transfert.
Oui, pardon.
On va essayer de se limiter, parce que je sais qu'on a ce tort. Donc on s'excuse. Ce transfert, Christophe, pour moi, c'est clairement le gagnant un des gagnants de la fenêtre de mercato, Sébastien Haller, parce qu'il était perdu à West Ham et qui va jouer l'Europe et le titre aux Pays-Bas avec l'Ajax, dans une équipe qui en plus joue mille fois mieux au foot. Alors même si West Ham est pas dégueulasse cette saison, je pense que ça peut que lui redonner du plaisir, lui redonner une certaine valeur, lui faire enquiller pas mal de stats. Alors je suis même étonné que l'Ajax soit allé sur lui, parce que ça correspond pas aux attaquants qu'ils utilisent depuis pas mal d'années. Mais au final, pour l'instant, statistiquement, ça fonctionne. Et d'ailleurs, il y aura aussi un article à venir sur Coparena Arena sur l'Ajax avant le match contre Lille en Ligue Europa. Donc je pourrais me pencher un peu là-dessus. Mais je suis vraiment étonné. Pas forcément étonné que ça fonctionne, parce qu'un mec de ce profil-là va forcément marquer aux Pays-Bas. Mais étonné du choix de l'Ajax.
Yeah, of course, that may be considered a strange move, but... oui, non, Sébastien, alors, en fait, là où c'est intéressant pour l'Ajax, c'est que finalement, c'est une équipe dont on peut parfois sous-estimer la volonté de passer par les airs, parce que c'est pas son plan de départ, mais qui peut être amené à le faire. Alors, bon, ça fait partie des choses que j'essaye de voir un petit peu, le championnat néerlandais, et notamment les matchs serré de l'Ajax, c'est aussi regarder un peu la Z notamment.
Et il faut préciser, pardon Christophe, il me semble que Ten Hag l'a eu à Utrecht et que ça explique aussi cette idée.
Effectivement, ça, c'est un bon argument. Pas forcément, enfin, je suis même pas sûr que ce soit genre l'idée de le recruter. C'est peut-être plus l'idée pour Allaire d'accepter de venir. Je pense que dans tous les cas, l'Ajax aurait pu se pencher sur le dossier, mais là, ça a pu faciliter le contact effectivement. Mais tu vois, pour revenir à ce que je disais, c'est vrai que c'est pas forcément le profil. Tu penses plus instinctivement ces dernières saisons à des Tadic, etc., qui vont occuper un rôle de faux numéro 9. Maintenant, faut pas oublier que l'ami Huntelaar était quand même là depuis quelques saisons. Que là voilà c'est terminé, je crois qu'il quitte le club sur un doublé décisif là, genre à 89e et 91e alors qu'il était rentré juste avant, donc ça fait y a quand même des joueurs qui peuvent être surtout bons dans le domaine aérien ou en tout cas dans la surface qui étaient amenés à être alignés par l'Ajax. Simplement tu les voyais pas forcément parce que c'était pas le plan de départ et que tu les faisais rentrer plutôt sur des fins de match en championnat ou alors sur des matchs directement en championnat, mais quand tu estimé avoir une certaine marge dans le jeu et pas forcément besoin d'un autre attaquant supplémentaire qui le fasse vivre. Et c'est vrai que l'Ajax peut avoir, moi j'ai notamment vu le match face au PSV, et c'est vrai que quand ça passe pas trop par le sol et que ça devient un petit peu stéréotypé à tourner en rond, à faire des triangles, mais sans forcément créer des espaces, ben avoir un Anthony notamment, le Brésilien, qui finit par faire un centre et à l'heure qu'il va imposer sa taille, c'est quelque chose qui est intéressant. Ce sera jamais ton plan A, mais c'est bien, et sachant que à l'heure, alors je parle beaucoup du domaine aérien, parce que voilà, c'est pas non plus le meilleur dans le jeu en remise, mais il est aussi capable de prendre la profondeur. C'est souvent sur la passe décisive qu'il fait, alors il me semble que c'est refusé pour hors-jeu ou qu'il marque, mais il y a une action comme ça contre le PSV où il prend aussi la profondeur, c'est-à-dire que c'est pas sûrement si tu le mets sur la plus haute échelle et les plus grosses adversités, il va pas ressortir du lot, mais aux Pays-Bas tous les défenseurs sont pas forcément ultra rapides, ils sont meilleurs balle au pied, donc là-dessus tu vois moins le différentiel de vitesse et il peut en prendre pas mal à la course. Donc je pense que lui va retrouver sa valeur un peu d'avant, qu'il va pouvoir à nouveau faire un gros transfert, en sachant que ses stats seront un peu bidonnés par le fait que les Eredivisie, comme disait Flo, les recruteurs ont tendance à pondérer à Bruges et divise par deux, notamment le nombre de buts et de passes décisives, en tout cas de buts, qui sont mis là-bas, donc à voir. Mais je pense typiquement que c'est un peu... voilà, faut faire une comparaison NBA comme d'habitude, il y a un petit peu un côté Shaquille O'Neal, j'ai l'impression qu'en fait il a des qualités où il va être un petit peu trop fort pour les défenses néerlandaises, alors que sur ces qualités spécifiques-là, il sortait pas forcément du lot en première ligue.
C'est le Wilt Chamberlain de l'Eredivisie. Quand il arrive, il est plus grand, plus costaud, plus fort dans les airs, il va prendre tous les rebonds. Bon, après, il a plus de passes décisives que de buts pour l'instant, donc ça aussi, tu l'as dit, c'est intriguant. On regardera un peu plus les matchs de Sébastien Haller, et notamment ceux contre Leeds, s'il est titulaire, à l'occasion de ces rencontres-là. Voilà pour la fin du premier jeu, qui était un peu le vainqueur du transfert. Alors, on n'a pas forcément donné à chaque fois le vainqueur et le perdant, mais ça nous a permis d'ouvrir un angle sur ces joueurs-là. On va passer au deuxième, où je vais citer pas mal de noms de joueurs. Vous êtes en train de jouer avec sur le document du podcast, j'espère que vous n'allez pas les supprimer d'un coup, sinon ce jeu va mourir. Je vais citer des noms, je vais laisser une pause entre chaque, et vous allez m'interrompre ou crier ou parler en anglais si vous voulez qu'on évoque ces noms-là. Je commence. Anthony Modeste, qui a signé à Saint-Etienne.
Top.
Ah bah ça commence bien, ça va durer 3 heures. Vas-y Christophe, rapidement.
Non, ça va être très court. Au moins Saint-Etienne a un attaquant. Parce qu'ils ont essayé d'avoir un attaquant égyptien dont j'oublie le nom, je suis désolé, avec une intervention un peu lunaire de l'un des deux présidents Stefano sur la télé égyptienne. Ils avaient essayé de boucler Niang il y a quelques mois sur le buzzer, ça s'était pas fait je crois pour une histoire de conseiller, enfin à chaque fois c'était des trucs un petit peu bizarres. Modeste n'est 2021, c'est pas le Modeste 2018, mais au moins ils ont une solution supplémentaire et rien que ça, ça pourra peut-être leur éviter d'aligner trop de joueurs avec un numéro 35, 36, 37 sur le dos où tu te demandes un petit peu si ce sont des joueurs de N2 ou pas. Là, au moins, ils répondent à un besoin pour on va dire un investissement relatif.
Et Crasso est lui reparti au niveau national puisqu'il a été prêté au Mans, le Mans qui joue la montée cette saison en national. Deuxième nom, Encham qui a signé à l'Olympique de Marseille. Ok. Fadiga qui a signé à Brest, prêté par le PSG avec une option d'achat. Non, d'accord. Kwadio Kone qui est parti de Toulouse pour signer à
Gladbach.
Tu veux en parler?
Bah, à voir rapidement ce qu'il va être capable de faire là-bas. La vraie question, je pense, pour lui et pour Gladbach d'ailleurs, ça va être ce qui va se passer cet été pour Marco Rose. Parce que si Gladbach doit être amené à changer de coach, ça peut changer pas mal de choses pour Kone aussi. Voilà. À part ça, bon move en théorie pour lui parce que au milieu de terrain à Gladbach, il y a de la place, je pense, pour jouer, surtout s'ils ont des départs à assumer cet été. Après, c'est un joueur qui a à polir, on va dire, encore aujourd'hui.
Ouais, tu le connais bien, tu l'as pas mal regardé. Le départ possible du côté Gladbach, ce serait Neuhaus. Je sais pas comment ça se dit, Christophe, si t'as une idée.
Neuhaus.
Voilà, notre Alsacien local. Voilà, ce serait peut-être pour le remplacer, parce qu'il peut jouer, devant la défense connaît, même si tu l'as dit, Florent, il y a beaucoup de progression, beaucoup de progrès à réaliser. On continue. Morgan Sanson, qui est parti à Aston Villa.
Non, il va courir. Non, il va courir. Il va courir. Ça va peut-être bien coller à ce que fait Aston Villa. Ça peut être un bon move pour lui, un bon move pour tout le monde en fait.
Tu cherches vraiment à dire move le plus possible.
Oui, pardon. Ça peut être
pour
un bon transfert.
Pour le plus possible de jeu. Il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas obligé de vous arrêter. Hein. Si je dis un nom, il n'y a rien à dire. Ne dites rien.
Ouais, mais t'as l'air à chaque fois un peu déçu, genre. Ouais. Tant pis, personne ne dit rien.
Ça ne change pas ce que je pense de vous. Ne vous inquiétez pas. William José. Qui a signé à Wolverhampton.
Oui, okay. Ça peut faire du bien sans Raúl Jiménez, mais c'était pas non plus. Enfin, il arrive pas sur une très bonne période pour lui. Ça fait longtemps qu'il devait quitter la Real, ou en tout cas que la Real voulait peut-être tourner la page et s'en séparer. Et s'il était arrivé après une bonne période et sur une phase positive, une phase ascendante, ça serait plus intéressant. Là, je sais pas s'il va pouvoir apporter immédiatement à Wolverhampton, en fait, alors que ils ont besoin, j'ai l'impression, d'un buteur tout de suite.
Oui, voilà. Parce que là, Fabio Silva, peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, mais là, cette année, c'est léger.
Les noms sont complètement dans le désordre. Hein. Il y a du championnat français, puis de l'anglais, puis de l'allemand, c'est n'importe quoi, mais c'est un peu fait exprès, c'est le grand bazar. Maitland Niles, qui est parti à West Brom. Ok. William Saliba, prêté à Nice. Ok. Fikayo Tomori.
Tiens, mais ton hockey, il est vachement négatif, en fait.
C'est non, mais pardon, moi, pardon. Suis... Non, mais pardon, je vais le faire avec joie, maintenant. Fikayo Tomori, prêté à l'AC Milan.
Non, il a joué, là, ce week-end. C'est pas forcément une bonne nouvelle pour Kalou, qui grattait du temps de jeu dans l'axe. Mais c'est une solution pour comme Meite au milieu, pour donner un petit peu plus de chances de gagner le titre en se renforçant sur les postes de remplaçant pour les prochains mois.
Ok, alors il y a Willock d'Arsenal, et je ne sais même plus où il est parti alors que je l'ai lu ce matin, donc je le zappe, vous n'avez pas le droit d'en parler.
Newcastle, je crois.
Ah oui, ça doit être ça. Jean-Phi Mateta, Crystal Palace. Non, rien de...
Il y a une interview de lui sympa sur le site de SoFoot. Voilà.
Oui, qui est un mec assez ambitieux, mais qui le cache pas, donc c'est assez sympa, c'est assez frais pour le coup. Alors je vois un Alenia cité, je ne sais même pas où est parti Alenia.
Retafi, il me semble.
Alors, il y a Gray, mais qui n'est pas André Gray, c'est Démarré Gray, qui est parti à Leverkusen. Est-ce que quelqu'un veut parler de Démarré Gray?
Je sais plus si c'est Julien Momont, je sais plus comment il avait dit, je crois, il prenne encore une mobilette ou je sais
un
pas
coureur,
quoi.
Ouais, c'est ça, un coureur de plus, ouais.
Un coureur de plus.
Mais oui, pour aller sur les côtés avec les Diaby, les Bellarabi, les Bailey aussi, voilà. Ouais. Ça leur fait une solution supplémentaire, ouais.
Pour pas cher, qui va être facilement possible de revendre assez cher en première ligue quand ils pourront pas trop recruter de joueurs non britanniques.
Jean-Claire Todibo.
Bah, ça serait bien qu'il lance sa carrière, quoi. Surtout que ce qui émerge de lui dans le monde du foot n'est pas très positif sur la personnalité du garçon. Alors, je le connais pas spécialement, donc je me prononce pas. Mais pour lui, ça serait bien de qu'on parle de lui pour un niveau sportif et pas pour son incapacité à rentrer dans les groupes quasiment partout où il passe là depuis quelques mois.
Rougani, qui a déjà quitté Rennes pour Cagliari.
Oui, alors sans doute un des trucs les plus prévisibles de la saison, le prêt de Rougani qui ne fonctionne pas. Déjà à la Juve, c'était compliqué, et à Rennes en Ligue 1, ça l'a été aussi. Je sais même pas combien de matchs il a joué, mais
je dirais deux, mais
ouais, c'est difficile.
Ouais, bah, ouais. C'est comme Deschiglio, hein, pour le coup. Ça fait partie des joueurs qui donnent vaguement de chance dans des équipes dont ils sont le moins bon défenseur d'une ligne où il y a pas mal de mecs plus doués autour. Et Rougani avait même du mal à donner le change à la Juve. Donc oui, il me semble qu'on l'avait annoncé ici. Et ça se confirme malheureusement, c'était un pari, ça n'a pas fonctionné. Voilà.
Il a joué 117 minutes avec Rennes, 107 minutes pardon, avec Rennes, ouais. Depuis son arrivée. Un match en Ligue 1 en entier et une entrée en cours de jeu contre je ne sais pas qui en Ligue des Champions, parce qu'il a joué 17 minutes sur un match en Ligue des Champions. On enchaîne avec Kenny Lala qui part à l'Olympiakos.
Je pense qu'il va être amené à jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. On se dira, putain, comme Masuaku notamment, qui a joué la Ligue des Champions avec l'Olympiakos, c'est pourquoi pas ensuite faire un transfert du côté de la Première Ligue dans un club de milieu de tableau. Je pense que c'est l'évolution qui est possible pour lui si jamais il a ses points pour aller en Première Ligue, sinon il restera tranquillement à l'Olympiakos, et puis pour lui ça lui permettra de jouer quelques matchs face à des adversaires prestigieux.
Oh non, mais c'est pas mal pour l'Olympiakos non plus d'avoir un bon latéral droit de Ligue 1. Alors on enchaîne avec Lirola. Voilà, il n'y avait pas de grand chose à dire, en plus c'est un peu trop tôt pour en parler, on ne le connaît pas forcément extrêmement bien. Alors Pablo, c'est quoi, c'est le Pablo de Bordeaux, Florent?
Ouais, qui part au Lokomotiv Moscou et qui permet à Bordeaux de récupérer un peu d'argent parce qu'ils en ont bien besoin en ce moment. Un joueur qui en plus n'est pas non plus un départ qui fait trop mal vu que Bayes s'était imposé en défense. Donc bon move pour Bordeaux. Pour lui, je suis moins convaincu, mais je sais pas si son aventure à Moscou va s'étendre très longtemps ou s'il va pas rentrer au Brésil rapidement.
Pablo qui à un moment était tout près de la sélection brésilienne.
Il a été international. Il a joué, il a deux sélections, il me semble, un truc comme ça.
Et ça, c'est vraiment un des trucs les plus fous de la décennie des Girondins de Bordeaux.
Ça, c'est les fameuses sélections, tu sais.
Que les locaux.
Voilà. Non, c'était en tant que Bordelais. C'était en tant que Bordelais qu'il avait été appelé.
Ouais, mais c'est pas celle où ils prennent aucune star, quoi. Enfin, je dis que les locaux. Mais
si, oui, il n'y avait pas Thiago Silva, Marquinhos, etc. Et du coup, il s'était retrouvé là, il me semble.
Tu vois, Gilles, l'ancien Valenciennois, a 11 sélections, par exemple.
Ouais.
Ouais, mais ouais, bon, enfin, on va pas analyser la carrière de Gilles, mais Pablo, j'avais vraiment pas du tout compris. Alors, je vois un Malcuit cité, je ne sais même pas ce qui est arrivé à Malcuit cet hiver.
Il est parti, je crois, en prêt du côté de la Fiorentina. Et il me semble, du coup, pour remplacer Lirola, parti à Marseille, oui. Logiquement.
D'accord.
C'est ça. Et peut-être qu'il va réussir à lancer sa carrière, qui sait.
Ouais, à la relancer.
En Italie, à la relancer.
Il y avait une belle période, et là, entre les blessures et la concurrence à Naples, ça a été très compliqué. Bas Dost, qui va marquer des buts où?
À Bruges, on l'a mentionné, je crois, dans le dernier podcast. Rajouté de plus, il va marquer ses buts, il en a encore mis un ce week-end, tout va bien.
Non, c'est bien, la carrière classique de Bas Dost. Frédéric Gilbert, l'ancien Bordelais, Florent, qui revient
à Strasbourg.
Et qui remplace Kenny Lala.
Exactement. Et Simacan peut-être, parce qu'il a cette polyvalence-là qu'il avait montré du côté de Bordeaux. Donc ouais, il vient juste boucher les trous laissés vacants par Simacan et Lala. Au moins pour 6 mois, je sais plus si c'est un transfert, je pense que c'est un prêt. Et voilà, bah, Strasbourg qui va pouvoir finir la saison tranquille avec lui, je pense.
Cocorine, l'ex-Tolar qui va à la Fiorentina, Christophe. Pour moi, c'est le transfert fiorentinesque des dernières années. C'est-à-dire qu'ils prennent toujours les mecs qui ont l'histoire la plus intéressante. La construction de leur effectif est assez fun. Il y a 5-6 ans, ça avait donné des effectifs fous, où il y avait une image vraiment dont j'avais parlé, je crois déjà dans un épisode, où ils ont un 11 exceptionnel pour une équipe qui finit 4-5e de Serie A. Là, par contre, depuis quelques temps, je ne sais pas trop quoi penser du recrutement de la Fio.
Non, je ne sais pas non plus quoi en penser. Tu dépends encore beaucoup. Je fais un petit papier là-dessus, dans la dernière Voix des Sports, de Franck Ribéry, qui a quand même 37 ans. Donc, Bah, c'est tant mieux pour Ribéry de réussir à avoir ce niveau-là dans un rôle assez axial, d'espèce de deuxième attaquant avec Vlahovic, généralement, parce que bon, il va plus faire les efforts sur le côté. Mais à un moment, tu dois être capable de te réinventer quand même et de faire évoluer ton projet, ta manière de jouer, faire émerger des joueurs. Là, Vlahovic, c'est pas mal, mais bon, t'as perdu Chiesa. Enfin, ouais, j'ai du mal à comprendre la direction sportive, tactique, le projet globalement de ce club qui était quand même il y a quelques années. Enfin, c'était bon. Bien sûr, tu cites l'époque où t'avais Mathy Fernandez, Borja Faleiro, etc. Mais t'as encore avant, t'avais Batistuta. Enfin, voilà, c'est quand même un club marquant du football italien. Et là, honnêtement, il n'y a pas plus d'intérêt à Fiorentina qu'ailleurs, alors que les effectifs, je trouve, ça mérite un petit peu mieux. C'est généralement pas trop dégueu.
Dernière fois qu'ils ont fait top 5 de Serie A, c'était en 2016. Et depuis, ils font 8, 8, 10, 12. Il y a une saison où ils sont passés quasiment. Où ils ont failli être relégués en deuxième division. C'est un club qui est devenu assez quelconque en Serie A. On enchaîne avec Radonjić, qui est parti au Hertha Berlin, Christophe. J'imagine que tu as un mot à dire sur lui.
Plus sur le Hertha Berlin, peut-être.
En fait, le Hertha Berlin a changé de directeur sportif et d'entraîneur, mais de directeur sportif, c'est important puisqu'on parle de transfert. Donc, c'est-à-dire, c'est pas le même mec. C'était Pritz, avant l'ancien joueur, l'ancien attaquant, qui faisait tout ce qui était Touzard, Guendouzi. Alors, Guendouzi, ça se comprend. Touzard, à ce prix-là, un petit peu moins. Piontek, etc. Et donc là, c'est une personne différente. Peut-être même recruteur, je ne sais pas qui a fait la suggestion, mais qui prend Radonjić. Donc, du coup, ça veut dire que peu importe qui tu mets, il y a des idées qu'on qualifiera d'ambitieuses que moi je n'aurais pas eues. Pourquoi pas, mais encore une fois, pour moi, Radonjić est un joueur de niveau Ligue 2 avec un profil de joueur Ligue des Champions. Sauf que le Hertha n'est pas une équipe de Ligue des Champions, donc du coup il n'aura pas ces fameux ballons à jouer régulièrement à 30 mètres du but pour faire ses dribbles, ses inspirations. Et là comme ça, je vois pas ce qu'il peut apporter, qu'il apportait pas à Marseille. Mais bon, c'est le Hertha. Hein. Ils ont des moyens colossaux là depuis quelque temps, depuis un an, et au final ils sont limite barragistes. Donc faut pas trop chercher à comprendre.
Alors, on ne parlera pas de Mustafi et Kovalenko puisqu'on les a déjà cités. Étienne Capoue est allé à Villarreal retrouver Unai Emery, qui a aussi
Oui.
récupéré Coquelin, qui en fait récupère tous les milieux français un peu similaires.
Retrouver Unai Emery?
Oui, trouver Unai Emery.
Ah,
Après, je crois qu'il s'était croisé une fois chez Shopee, à Vichy, et puis ça s'était bien
Ouais.
passé.
Oui, ils avaient parlé notamment des meilleurs moves de l'été. Je suis sûr que Capoue utilise ce mot parce qu'il a fait une bonne partie de sa carrière en Angleterre. Capoue qui a un peu disparu quand même des médias français, alors qu'à un moment on en parlait pas mal à Tottenham. Je sais pas vraiment ce qu'il vaut ces dernières années.
Mais là, en tout
À
cas, il
voir.
joue à Villarreal, hein,
Ouais,
donc...
il joue, ouais.
Tant mieux. Mais par contre, les recrutements de Villarreal depuis qu'Emery est là me donnent pas du tout envie de regarder Villarreal. C'est particulier. À part Kubo que j'avais envie de voir et qui du coup j'ai plus envie de voir. Donc je sais pas ce que. Il faudrait que je vois ce que ça donne dans le jeu, mais les milieux comme ça, un peu neutres, gros volume de jeu, mais pas particulièrement créatif, pardon. Pas très excitant, en théorie en tout cas. On enchaîne avec Sami Khedira au Hertha Berlin aussi.
Non.
Non, non, on
D'accord.
voit pas.
Voilà.
Il jouait même plus à la Juve, on sait même pas trop ce qu'il vaut, c'est difficile.
Ok, très bien. Et il nous reste Minamino, qui est
Non.
parti à
Ça, c'est
Southampton
toi qui en
après.
parles, la Minamino. C'est ton joueur,
Bah.
c'est ton club.
Ouais, non, mais parce que. Alors, c'était un super profil, notamment quand il avait affronté les Liverpool en Ligue des Champions avec Salzbourg. Depuis qu'il est arrivé, c'est très très compliqué parce qu'il n'a pas vraiment de poste dans le 4-3-3 de Liverpool qui lui correspond idéalement. C'est-à-dire que lui, ce serait plutôt un deuxième attaquant, un mec qui va jouer derrière un gars qui occupe la défense centrale, et c'est pour ça qu'à l'époque de Salzbourg c'était parfait parce que t'avais Haaland qui en plus occupait du monde et lui pouvait jouer entre les lignes, mais à Liverpool le rôle que Klopp lui a confié c'est soit celui de relayeur, soit celui de Firmino, et dans aucun des deux il s'est épanoui. Donc là ça va s'entendre dans une autre équipe qui presse, qui agresse, je pense que ça peut coller, et j'espère que ça va le révéler un peu, mais j'ai peur que ce soit la préparation, le petit break avant la séparation, comme dans un couple. Et que Liverpool n'arrive pas à en faire quelque chose dans son effectif. En fait, j'adore le joueur, j'étais inquiet assez vite sur ce qu'il proposait à Liverpool, et d'ailleurs, quand on en discutait ensemble Sur Messenger, je vous disais souvent, mais c'est pas possible, il garde pas un ballon, on dirait un enfant face à des adultes. Alors peut-être que ça va changer à Southampton parce que il y aura moins souvent le ballon et il va faire des différences par son pressing, mais je sais pas si la première ligue était super pour lui, pour le coup. J'espère qu'il va réussir à se relever. Et on finit par un Bordelais, Florent, c'est Josh Maja, la star oui. du docu Netflix à l'époque.
Si l'option d'achat est levée à 10 millions, c'est assez exceptionnel pour Bordeaux. Voilà. C'est tout. J'ai rien d'autre à ajouter.
Quelles sont les clauses pour lever l'option, Florent ?
Je ne sais pas. Je me dis que c'est peut-être en fonction du maintien ou non de Fulham. Ça ne me surprendrait pas. Mais voilà, il y a une option. On verra bien ce qui va se passer. Mais si elle est levée, c'est quand même un petit miracle, vu ce qu'il a montré depuis qu'il est arrivé à Bordeaux.
Très bien. Bah, merci à vous, messieurs, pour ce bilan du Mercato, qui était assez complet, mais pas exhaustif. Hein. On ne pouvait pas citer tous les joueurs qui ont bougé. Puis il n'y a pas eu de transfert non plus mirobolant. On peut passer au pari avec notre partenaire PMU.fr.
PMU vous présente la séquence prono.
La séquence prono, et on va démarrer par Christophe, puisqu'on vient de parler de Josh Maja avec Florent. Christophe, tu as envie de partir en Italie.
Le premier pari, c'est la Juventus revient au score et l'emporte contre la Roma, c'est coté à 7. Alors là, clairement, on a tout mis dans ce pari, en espérant me relancer une dynamique en frappant un grand coup. C'est assez risqué, mais je pars de l'idée que je pense que dans tous les cas, mais les paris là-dessus étaient pas super bien cotés, mais qu'il y aura pas mal de buts parce que la Roma attaque énormément, joue beaucoup de transitions offensives et se projette en nombre avec un Veretout qui a beaucoup de volume, etc. Qui a fait je ne sais pas combien de tirs, mais il en a fait beaucoup là sur le match du week-end. Donc la Roma va tirer, aura des occasions. La Juve est quand même assez perméable. Pas que sur ces phases-là, même son bloc médian, je le trouve assez passif, mais voilà. Je pense qu'il peut y avoir un 2-2, un 2-1, un 3-2, intrinsèquement. Et en fait, quand j'ai vu cette cote-là, et quand je me souviens des deuxièmes périodes de la Roma, qui sont souvent assez difficiles, je vois bien le fait que la Roma puisse ouvrir le score, et beaucoup de mal à subir par la suite si la Juve essaye d'imposer sa volonté pour revenir au score. Donc du coup, un 3-2 ou un 3-1 pour la Juve, en ayant un peu raté l'entame face à une équipe qui les réussit bien. Alors, je suis forcément dépendant du scénario, hein. Le truc peut vite s'arrêter en fonction de qui marque le premier but. Mais à partir du moment où je pense que la Juve va gagner, je me dis que ce pari stante, côté à 7, c'est audacieux, mais ça se prend.
Ton deuxième est légèrement moins audacieux.
Ouais, même si encore une fois, pas encore une fois, mais même si c'est une victoire à l'extérieur. D'une équipe qui est pas forcément bien meilleure que l'autre, donc du coup tu dis ah oui j'ai un match à l'extérieur, est-ce que ça mérite de prendre le risque ou pas, mais je pars sur l'idée que le Hellas Vérone va battre l'Udinese. C'est une cote à 3-10, ce qui est pas mal. Alors quand je parlais de la logique du classement, c'est-à-dire que Vérone est 9e avec 30 points, un point de Sassuolo 8e, ils ont un petit break, ils ont 4 points d'avance sur la Samp derrière, et ensuite c'est à 8 points Benevento, et l'Atalanta devant est à 6 points de Vérone, donc du coup, sont un peu les deux équipes vraiment du ventre mou, alors que du côté de l'Udinese 13e, mais 21 points, donc quand même un gros écart. Alors bon, les barrages sont à 6 points, a priori il n'y a pas de menace directe, mais c'est pour dire qu'il n'y a que 4 points d'écart au classement, mais il y a 9 points, donc le Hellas est une meilleure équipe, et surtout, c'est pas que ça, mais c'est en partie ça. Udine, qui a gagné ce week-end contre la Spezia, mais qui sinon n'avait pas gagné depuis le 12 décembre face au Torino. Donc, à vue d'œil, je crois qu'il y a genre quelque chose comme 8 matchs sans victoire auparavant. Cette équipe-là sera privée de Rodrigo De Paul, qui a pris un deuxième jaune un petit peu stupide et a été expulsé sur ce match du week-end où il avait marqué le seul but sur penalty. Et sans Rodrigo De Paul, c'est pas la même équipe, déjà qu'avec, comme je le disais, à part ce week-end face à la Spezia, qui est quand même un petit de Serie A, ça ne gagnait pas. Alors sans lui, je pense que ça sera difficile. J'aime plutôt bien le Hellas, qui est une équipe qui ne s'en cache pas, qui reprend la plupart des principes de l'Atalanta, qui a fait de très beaux matchs, notamment face à Naples, la victoire 3-1, dont je crois que j'avais aussi parlé dans le banquet. Donc voilà, place au jeu, place aux joueurs, 3-10. Si tu prends en compte aussi le fait que domicile extérieur en temps de Covid, ça n'a plus forcément de grande importance. J'y vais, les deux pieds joints et le sourire aux lèvres.
Merci Christophe. En bon patriote, Florent va nous ramener en France et en Ligue 1.
C'est quoi cette phrase?
Puisque tu nous proposes deux paris sur Brest, Bordeaux et Nice Angers.
Ça va pas du tout ça. Oui, alors Brest-Bordeaux, match qu'on espère à but, tout simplement, puisque le pari c'est de partir sur le fait qu'il y aura plus de 3,5 buts marqués dans ce match. Alors pourquoi ce pari? J'ai parlé un petit peu de Bordeaux tout à l'heure avec des joueurs, un système qui ne bouge pas, mais des joueurs qui changent et qui font une équipe plus portée vers l'avant et plus pertinente quand il s'agit d'attaquer. Ils l'ont un petit peu montré en contre-attaque à Lyon, ils l'ont montré aussi très bien à Nice avec une victoire 3-0 lors d'un autre déplacement. Et du coup, l'idée, c'est de partir donc sur le fait que Bordeaux va marquer des buts. Mais en face, Brest, à domicile, est quand même une équipe assez performante. Je crois qu'ils sont dans le premier tiers du classement sur les équipes, sur le bilan à domicile, tout simplement. Et en fait, c'est surtout une équipe qui envoie du jeu, qui propose du jeu et qui peut marquer, mais qui peut aussi prendre pas mal de buts à domicile. Puisqu'en fait, depuis le début de la saison, sur les 11 matchs disputés à la maison par Brest, il y en a 6 qui se sont terminés sur un score où il y avait eu plus de 3,5 buts marqués. Donc, l'idée, c'est de partir sur un Brest-Bordeaux intéressant et avec des buts. Et donc plus de 3,5 buts marqués. Et la cote est à
3,20.
Mettre sous les yeux à 3,20. Voilà.
20. Merci. Et ça te permet aussi de parler de Bordeaux, ce qu'on n'avait pas fait assez avec Maja et compagnie. Deuxième pari, Nice-Angers.
Oui, Nice-Angers, là je vais rester sur... alors je vais en profiter pour faire la promo. Une nouvelle fois de Cop Arena avec Projet de Jeu, l'émission avec Christophe Kuchli et Maxime Brigand qui ont interrogé Stéphane Moulin sur son projet de jeu, sa philosophie de jeu et son métier d'entraîneur. Donc ça sort jeudi sur Cop Arena, donc vous pourrez l'écouter avant le match entre Nice et Angers qui a lieu ce week-end, je crois que c'est dimanche à 15h. L'idée c'est simple, hein, c'est que Angers sur les dernières rencontres n'est pas non plus très bien payé. Ils n'ont pas été bien payés à Bordeaux, ils ont battu Nîmes certes, mais contre le PSG ils auraient pu espérer mieux. Contre Lille ils avaient été bien payés. Enfin, contre Lille, ils s'étaient imposés en marquant très vite. Mais l'idée, c'est de les imaginer très solides, comme ils le sont habituellement, lors de ce déplacement à Nice. Et Nice qui a quand même beaucoup de mal ces derniers temps. Alors certes, ils sont allés gagner à Lens à l'extérieur, mais sinon, c'est défaite contre Saint-Etienne, défaite contre Bordeaux, nul contre Metz, défaite contre Brest, nul contre Lorient, défaite contre Lyon. Et surtout, à la maison, ils n'ont tout simplement pas gagné un match. Et je suis en train de remonter leur calendrier pour voir depuis quand ils n'ont pas gagné un match. Depuis le 3 octobre dernier, c'était face à Nantes, qui n'allait déjà pas très bien à l'époque, il me semble. Donc voilà, Angers, à mon sens, est capable. Si Bordeaux s'est imposé à Nice, 3-0, je pense qu'Angers est capable d'aller gagner à Nice aussi avec au moins 2 buts d'écart. Donc je pars sur un pari assez audacieux d'une victoire d'Angers avec un handicap de -1. Donc Angers, -1. Et la cote est à 5,40.
Merci Florent, pardon, j'étais un peu perturbé parce que dans le même temps, alors évidemment ce sera ridicule puisque vous n'avez pas écouté le podcast au même moment, mais Villas-Boas vient de démissionner en conférence de presse en expliquant qu'il avait refusé Encham et que le club l'avait quand même fait venir, donc il a démissionné en disant je ne veux aucune indemnité, je ne suis plus en accord avec la politique du club, ça n'a pas de rapport avec les événements qui sont déroulés au centre d'entraînement, mais je démissionne. Voilà, donc c'est la première démission qu'on a en plein enregistrement de Vue du Banc.
Après, il dit que j'ai présenté ma démission, j'ai pas eu de retour. Donc, en face, qu'est-ce qu'il va faire? Après, tu veux partir, tu partiras. Hein, mais là, il a l'air dans une logique assez procédurière, assez cadrée de j'ai donné le document, j'attends qu'il soit signé.
Ouais, bon, si le club refuse et dit continue, le mec va arriver les mains dans les poches, il va même pas dire bonjour à Encham, il va dire t'es qui toi? Non, je te connais pas, je te voulais pas. Enfin, entre ça et sa déclaration de foi où il dit oui, je pense que ça va se finir et tant mieux, c'est compliqué. Mais bon, voilà pourquoi aussi c'est vite le bazar autour de l'OM, c'est que les décisionnaires et les responsables de ce club ont pas trop, je trouve, de considération pour les gens qui sont fans, quoi. C'est un gros jeu d'ego entre tout le monde, et puis tant pis pour les mecs qui sont supporters du club. Enfin bon, d'ailleurs, le mot fan est un peu une traîtrise de la notion de supporter. C'est une traduction, un anglicisme qu'on ne devrait pas utiliser pour finir et conclure sur les anglicismes qu'on utilise trop en France. Merci messieurs pour ce bilan du mercato. On reviendra peut-être la semaine prochaine lors du prochain épisode du coup sur le bilan de Villas-Boas. Florent, ça peut être une idée.
Ouais, surtout qu'il y a un PSG-OM ce week-end.
C'est vrai, ça
ou
aussi.
MPSG, je sais plus. Ou MPSG, je crois.
Ouais. Il y a Lens Marseille où je serai demain au stade à couvrir le match. Donc en plus, je vais pouvoir voir un petit peu ce qui se passe dans les coulisses.
En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que Villas-Boas est dispo pour participer à un projet de jeu bientôt sur Copa Arena.
C'est vrai.
Et ça, c'est très cool. Il pourra nous parler de plein de choses. Je suis pas sûr qu'on va parler beaucoup de jeux, vu son expérience marseillaise. Mais il sera peut-être plus libre pour se livrer. Merci à AVB pour cette période folle qui avait très bien démarré et qui se finit très très mal. On se retrouve donc dans un prochain épisode pour parler. On verra de quoi. Ça dépend qui démissionne. Ciao.
Salut.
Cordialement.
Vous avez tout compris grâce à ce podcast. C'est le moment de parier sur PMU.fr. PMU, que les meilleurs gagnent.